Vous êtes sur RTL.
Bien, je suis ravi de vous retrouver.
Ben oui, l'automne vous chiffonne ou ça va ?
L'automne vous chiffonne. En tout cas, ça rime, c'est sublime.
On vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à tous.
Je vous en prie, à demain.
Éric Dupond-Moretti est ce matin l'invité exceptionnel d'RTL. Il répondra à Alba Ventura dès 7h40, notamment sur le nouveau code pénal des mineurs qui entre en vigueur cette semaine. La lutte contre les violences syndicales, mais aussi contre les violences conjugales, excusez-moi, mais aussi l'état de nos prisons. Tout cela au menu. Vous pourrez vous-même d'ailleurs interroger le garde des Sceaux à partir de 8h20. Vos questions au 3210 ou par SMS au 64 900. Quelles sont les réponses de la justice aux violences et à la criminalité aujourd'hui dans notre pays? N'hésitez pas à interroger notre ministre, un ministre dont le budget est en hausse. Pourquoi faire? Nous lui poserons la question. Enfin, autre rendez-vous exceptionnel, dès 7h15, il était la une de toute la presse française aujourd'hui. L'interview accordée par notre double champion du monde, Julian Alaphilippe, après son nouveau sacre hier en Belgique. Il s'est confié à Nicolas Georgerot. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. A tout de suite. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, acheter français, l'appel à l'aide ce matin sur RTL des fabricants de masques made in France.
Des entreprises sont quasiment en faillite. L'État qui leur demandait il y a un an d'investir, de produire massivement pour être autonome, se fournit à nouveau aujourd'hui en Asie. En Allemagne, les sociaux-démocrates du SPD sont en tête, mais rien n'est fait pour autant. Les conservateurs de la CDU sont juste derrière. Les Verts et les libéraux sans état d'âme s'offriront aux plus généraux pour monter une coalition. Dans ce journal également, imaginez-vous ce matin partir au bureau avec une besace entre 15 et 20 kilos. Proportionnellement, c'est ce que font vos enfants tous les jours. La Fédération des parents d'élèves demande une loi. Et puis Julian Alaphilippe, effectivement, qui s'assoit à la table des plus grands champions de son sport. C'est la première fois qu'un Français conserve son titre de champion du monde.
La politique, Olivier Bost.
Et l'Allemagne, donc, pays de l'instabilité politique. Vous plaisantez, j'espère.
Et vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
En avril 2020, souvenez-vous, quand la France se rend compte qu'elle peut à peine fournir des masques à ses soignants, la priorité devient évidente, remonter des entreprises 100% françaises pour ne plus dépendre des grands producteurs asiatiques. En quelques mois, performance industrielle rare, le pays remet sur pied 25 sociétés, avec à la clé la capacité de fabriquer 100 millions de masques par semaine et d'être donc complètement autonome. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, les clients manquent. L'État lui-même a recommencé à commander des masques en Asie. Et Patrice Gabart, l'exemple type, c'est cette entreprise, cette coopérative bretonne installée près de Guingamp qui est au bord de la faillite.
Bonjour, c'est la Coop des masques à Guingamp. Est-ce que vous avez des besoins en ce moment ?
Opératrice de conditionnement, Amandine Laurent, comme une partie des équipes, a quitté l'atelier pour rejoindre les bureaux et rappeler les 4000 contacts du fichier client. L'objectif, diminuer le stock de 6 millions de masques en bradant les prix de 30 à 50% pour retrouver un peu de trésorerie.
On s'accroche, on va dire. Enfin, moi, j'arrive pas à me dire qu'il faut laisser tomber et je me bats tous les jours pour ça, quoi.
Plus de 500 000 masques sont partis ces 5 derniers jours. C'est encourageant, mais rien n'est gagné. Guy Asquette, président de la coopérative.
D'après le syndicat des masques, plus de 95% des achats français du premier semestre sont partis en Asie. Donc, on est dans la course au moindre prix. Donc, il y a une contradiction entre volonté de relocalisation. Nous, on a monté une filière française-européenne. C'est-à-dire que nos machines sont françaises. Tous les produits qui rentrent dans la fabrication, on est un petit peu plus cher, mais la question, c'est que comment des gens qui disaient allez-y, foncez, on en veut, on sera là il y a un an et qui achetaient des masques jusqu'à 1 euro le masque, disent 10 centimes ou 8 centimes, ah non, maintenant 4. Ils repartent vers leurs mauvaises habitudes tout en souhaitant la relocalisation. On est dans une contradiction qui est aussi bien dans le monde public que dans le monde privé. Donc au moment où vous rentrez en production et que vous devez appeler tous vos clients, ils vous disent bah, pour l'instant je veux bien, mais j'ai besoin de rien.
Pour éviter le dépôt de bilan, la coopérative bretonne doit déstocker plus de 2 millions de masques dans les semaines qui viennent.
Merci beaucoup Patrice Gabart. Et donc cet appel acheter français d'un secteur qui, selon les syndicats, génère 10 000 emplois. Jean Castex le confirme, les tests Covid de confort ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre, sauf sur prescription médicale ou pour les personnes vaccinées. Et puis SOS Médecins sera totalement à l'arrêt pendant 24 heures. La grève commence tout à l'heure à 8 heures pour obtenir une augmentation du prix des visites à domicile.
RTL, il est 7h03 en Allemagne. On ne sait pas ce matin qui sera le prochain chancelier allemand.
Et non, les sociaux-démocrates du SPD arrivent en tête. 25,7% des suffrages. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin pour RTL. Alors Olaf oui. Scholz, pour autant, est encore loin, très loin d'entrer à la chancellerie. Les scores, en fait, sont beaucoup trop serrés, Bénédicte.
Ah, le vote des Allemands est très très émietté. C'est même une première pour la CDU, les centres droits menés par Armin Laschet, d'être en dessous de la barre des 30%. Mais ce n'est pas perdu pour autant pour le parti d'Angela Merkel. Il peut espérer gouverner avec des alliés, les Verts, qui sont à près de 15%, plus les libéraux à 11%. Vous le voyez, les jeux ne sont pas faits.
Alors en France, avec une telle situation, on parlerait de blocage, voire de crise politique. Ouais. L'Allemagne, de son côté, est habituée à ces tractations.
Alors écoutez, aucun Allemand n'espérait connaître le nom du chancelier cette nuit. Une fois seulement, un parti a obtenu la majorité absolue, c'était en 57 avec Adenauer. Donc maintenant, la partie de poker débute. Ce matin, tous les leaders se réunissent et annoncent avec qui ils veulent négocier. On discute à trois, peut-être à quatre. Par exemple, le SPD, centre-gauche, les Verts et la droite libérale. Oui, oui, un tel mariage va exister, peut exister. Ensuite, on rédige un traité de coalition qui aura une valeur juridique. On va y inscrire, par exemple, la fermeture des centrales à charbon pour 2030. Et après, on connaîtra le nom du chancelier. Durée moyenne de tout ça, 43 jours, si on se réfère à l'histoire. En 2017, il avait fallu, on le rappelle, plus de 5 mois.
On va devoir être patient. Merci beaucoup, Bénédicte Tassa, envoyé spécial d'RTL à Berlin.
7h05, et dire qu'on ne le donnait pas favori, Julien Alaphilippe a été très grand hier.
Et oui, il conserve son titre de champion du monde de cyclisme. C'est la première fois qu'un Français réalise un tel exploit. Et en plus, avec panache, Nicolas Georgerot.
Le scénario est différent de l'an passé, mais l'émotion intense, toujours. Les larmes sur le podium, 17 km, seul à résister au retour des adversaires. Julien Alaphilippe est le premier Français double champion du monde.
Je suis content d'avoir marqué l'histoire de mon sport, mais là, une victoire comme ça, ici en plus, en Belgique, sur une terre de vélo, gagner de cette manière, je pense que je pouvais pas rêver mieux, donc je me retrouve avec le maillot et il n'est pas tombé de nulle part, j'ai vraiment été le chercher, donc je vais vraiment le savourer aussi.
Valentin Madouas, équipier modèle et décisif, comme d'autres dans la dernière heure de course.
On est forcément fiers, heureux de porter ce maillot et avoir un champion comme Julien, c'est vraiment extraordinaire.
Au total, 5 attaques d'Alaphilippe en 40 km pour écœurer la concurrence. Le Belge Van Aert, le Néerlandais Van Der Poel, battus, impuissants, font allégeance.
Je suis heureux pour lui aussi, il mérite, il était encore le plus fort je pense aujourd'hui, donc c'est un beau champion.
Je pense Julien était le plus fort dans le final.
La foule, l'ambiance, le déroulement de la course, Alaphilippe a enflammé les 60 derniers kilomètres de ce championnat qui restera comme l'un des plus grands mondiaux de l'histoire.
Merci Nicolas Georgerot, et vous avez recueilli précisément les confidences, la joie et le bonheur de Julien Alaphilippe qu'on va entendre en longueur, juste après ce journal à 7h15. En bref, soyez patients si vous avez en tête de faire des travaux chez vous. Pénurie de matières premières oblige, on manque d'inox pour les cuisines, on manque de PVC ou d'aluminium pour les fenêtres. Les rayons des magasins de bricolage sont un peu plus vides que d'habitude en ce moment. Et les prix des chantiers augmentent. On va y revenir avec la brigade RTL, juste après ce journal.
Dans un instant, on se met à la place de nos enfants qui portent tous les jours des cartables d'au moins 10 kilos. 10 kilos, c'est 20% de leur poids pour la plupart d'entre eux. Les parents demandent une loi pour limiter tout cela. Restez sur nous sur RTL, il est 7h07, à tout de suite.
RTL Matin.
Il est 7h08, la suite du journal avec Olivier Bois. Nos élèves et nos collégiens, très précisément, ont mal au dos.
Et on les comprend, avec des cartables de 10 kilos en moyenne, les collégiens portent, disons, 20% de leur poids tous les jours, avec des livres énormes qui ne sortent parfois même pas de leur cartable. Écoutez le ras-le-bol, par exemple, de Carla, qui est au collège.
C'est vrai que nos sacs sont vraiment très très lourds, c'est une catastrophe. Alors c'est vraiment horrible, il faut vraiment arrêter les livres.
Vous ameniez des livres pour rien ?
Ah oui, tous les cours, des livres pour rien.
Genre ils me disent de les emmener, au final on les utilise pas quoi.
À part en histoire, on l'utilise à chaque fois, les autres, ça, ils servent à rien. Le livre de physique, celui-là il me hante, hein. Un dictionnaire.
Le soir vous rentrez chez vous, vous avez mal au dos ?
Ah oui, oui.
Scoliose.
Scoliose, ah oui vraiment, horrible.
Carla, donc, au micro de Lucille Besse, et la FCPE, la principale fédération des parents d'élèves, réclame une loi justement pour limiter notamment le poids de ses cartables.
Il est devenu le symbole d'une forme de laxisme. Le ministre de la Justice ne veut plus du rappel à la loi.
Oui, qui peut être utilisé par exemple dans des affaires de violence ou de consommation de drogue. L'auteur est seulement convoqué, on lui rappelle la loi et ça n'est même pas marqué sur le casier judiciaire. C'est ce dont ne veut plus précisément le ministre de la Justice, Alice Moreno.
Oui, le rappel à la loi est une réponse pénale trop faible pour être efficace, selon le garde des Sceaux. Concrètement, aujourd'hui, l'auteur d'une infraction est convoqué par le procureur pour un entretien solennel. Il lui rappelle les obligations prévues par la loi et les sanctions en cas de non-respect. Et ce n'est même pas mentionné sur le casier judiciaire. Cette mesure représente 30% des alternatives aux poursuites. évanescent, mal perçu, insiste Éric Dupond-Moretti. Ce rappel à la loi sera remplacé par l'avertissement pénal probatoire au 1er janvier 2023. Pendant un an, à compter de la commission d'une infraction, les mis en cause seront placés sous surveillance. Durant cette période, s'ils enfreignent la loi à nouveau, ils peuvent être jugés. Pour les deux délits, seront exclus de ce nouveau dispositif dès la promulgation du texte les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les auteurs de ces délits feront l'objet de poursuites judiciaires.
Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
Et je vous rappelle qu'Éric Dupond-Moretti, ce matin, l'invité exceptionnel d'RTL, il répond aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40. Le fonctionnement de notre justice, le comprenez-vous? N'hésitez pas à interroger vous aussi le ministre à partir de 8h20. Il répondra à toutes vos questions en direct sur RTL au 32 10 ou par SMS 64 900.
En quelques mots, la 8e journée de Ligue 1. D'abord la victoire de Lens à Marseille hier soir 3-2 qui permet au sang et or de monter sur la deuxième place du podium devant l'OM précisément. Le PSG est toujours leader. Et puis en top 14, à l'issue de la 4e journée du top 14, eh bien Toulouse est toujours leader après sa victoire 27-15 face à Clermont. Et puis allez faire un tour sur vos comptes en banque. Tiens, aujourd'hui, si les prélèvements à la source n'ont pas permis de payer toute la somme à cause par exemple d'une augmentation de salaire, c'est aujourd'hui que le fisc va aller prendre le reste, que 11 millions de foyers fiscaux sont concernés. Et si la somme, ceci dit, excède les 300 €, il y aura 300 euros, il y aura échelonnement du paiement.
Bon, ben on va aller jeter un œil. Hein. Les courses ont lieu aujourd'hui à Rouen-Mocanchy.
Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 8, le 11, le 7, le 6, le 9, et le 12. La dernière minute, c'est le 11.
Et le journal nous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h12, la politique, avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Au lendemain des élections allemandes, nous ne savons pas ce matin qui va succéder à Angela Merkel, c'est très clair, mais pour vous, nous ferions bien de nous inspirer du système politique allemand. Alors ça, je veux bien vous écouter.
Ah bah oui, parce que de prime abord, le commentaire le plus facile ce matin, c'est de dire que c'est le bazar en Allemagne, oui. Que les deux grandes forces politiques, les sociaux-démocrates et les conservateurs, sont à égalité, qu'ils vont mettre des mois à former une coalition, que les écolos et les libéraux vont leur imposer leurs conditions, et qu'une alliance à trois partis, c'est difficile. Bref, c'est la 4e République. Angela Merkel sera toujours chancelière à Noël.
Mais alors, c'est pas vrai tout ça?
Alors, quel pays a depuis 16 ans la même chancelière? Quand en France, aucun président n'a été réélu hors cohabitation. Et si la démocratie allemande nous apparaît bien compliquée, le système électoral avec deux niveaux de vote et une proportionnelle intégrale modulée est très complexe, certes, mais ses résultats, ces dernières décennies, ont permis de faire bien plus de choses qu'en France. Et c'est bien tout ce qui compte. Des grandes réformes et traverser des crises de façon moins dramatique que chez nous. Il est faux de dire que le système allemand empêche de gouverner le pays. D'ailleurs, pendant 8 ans, ce sont les conservateurs et les sociaux-démocrates qui ont gouverné ensemble. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais sans que cela ne dépende que d'un seul homme. Parce qu'en France, l'élection présidentielle, c'est l'élection de l'homme providentiel tous les 5 ans. Le contraste avec les élections allemandes est saisissant.
Vous pouvez nous illustrer ce contraste ?
Eh ben regardez, rien que ce week-end, il suffit de regarder ce qui a animé le débat politique en France. Alors la droite a choisi un système fermé pour désigner son candidat. La gestation lente et imprécise d'une maison commune de la majorité autour d'Emmanuel Macron et du centre continue, sans que personne ne soit capable de dire à quoi ça pourrait ressembler ni à quoi ça pourrait servir d'ailleurs. Et puis ce week-end, toujours, une candidate à la primaire écolo a été traitée de Greta Thunberg ménopausée. Nous avons aussi appris qu'Éric Zemmour voulait abolir les lois contre les injures et les actes racistes. Ce petit résumé vous montre à peu près ce qui agite le monde politique avant l'élection suprême en France.
Vous voulez dire que les débats sont de meilleure tenue en Allemagne?
Pas toujours, mais ça n'a effectivement rien à voir. Comme tout porte sur l'exercice du pouvoir après les élections, les engagements ne sont pas pris à la légère. Ils sont la base pour former des coalitions. Les sujets qui ont dominé ces élections allemandes sont notamment le réchauffement climatique et la question des salaires, deux sujets qui sont aussi en tête chez les préoccupations des Français. Et pourtant, chez nous, les débats ne tournent pas du tout autour de ça.
Merci beaucoup, Olivier Bost. À 7h40, je vous le rappelle, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, répond aux questions d'Alba Ventura. Et le garde des Sceaux répondra aussi à toutes vos questions à partir de 8h20. Appelez-nous dès maintenant au 3210 ou envoyez-nous votre question par SMS au 64 900 en démarrant votre message avec le mot code MATIN.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h15, notre brigade RTL des chantiers plus longs et plus chers, c'est le revers de la médaille de la très forte reprise économique que connaît le pays. Les conséquences des pénuries de matériaux de construction commencent à arriver chez les particuliers et c'est le thème de cette brigade RTL. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Sale temps pour faire des travaux à la maison. Hein.
Oui, la première conséquence de ces pénuries de bois, d'aluminium, de plastique, c'est qu'il va falloir vous armer de patience si vous comptiez faire des travaux d'isolation par exemple. Les artisans reçoivent leurs matériaux au compte-gouttes avec des semaines voire carrément des mois de retard. J'ai fait le test en appelant des entreprises de menuiserie pour changer des fenêtres.
Alors, ça dépend ce que vous voulez comme fenêtre. C'est de l'alu, du PVC ?
C'est du PVC.
Oui, alors là, en PVC, je ne peux pas vous dire. Parce qu'il y a une pénurie de PVC.
Alors, ça, c'est pour le PVC, mais c'est pareil pour le bois, c'est pareil pour l'aluminium. D'une manière générale, sur les portes et les fenêtres, les artisans ont aussi beaucoup de mal à se procurer ce qu'on appelle des rupteurs thermiques indispensables pour l'isolation.
Mais alors, comment font-ils sur des chantiers qui étaient déjà commencés, Pierre ?
Eh bien, ils sont obligés de les mettre en attente. À l'arrêt, c'est ce qui est en train d'arriver à Bruno Hatton. Il dirige une entreprise de menuiserie dans la Sarthe.
On est complètement bloqué. On est obligé de remettre en question nos délais initialement prévus, c'est clair. Et là, ce qui se présente, c'est un peu des délais en début d'année prochaine au lieu d'une réalisation prévue en octobre.
Alors on imagine qu'en plus, ces pénuries ont une influence sur le prix pour le consommateur, Pierre.
Oui, très concrètement, pour ce chef d'entreprise, les travaux qu'il facturait 5000 euros au mois de mars, aujourd'hui il les fait à 5500 euros, plus 10% d'augmentation. Les prix des matières premières augmentent trop vite. Ils sont revus à la hausse presque toutes les 6 semaines, contre une fois par an en temps normal. La durée de validité de mes devis est passée de 3 mois à 15 jours. Ça, c'est ce que me dit un artisan spécialiste du bois dans la Drôme.
Alors, ça va se calmer quand, tout ça ?
Malheureusement, on a du mal à avoir de la visibilité là-dessus. Les artisans me disent espérer un retour à la normale au début de l'année prochaine, en tout cas pour les livraisons. Ça limiterait les retards de chantier. Ensuite, pour ce qui est des prix, c'est l'offre et la demande. Elle est extrêmement forte en ce moment, d'où ces montants qui explosent. Quand elle retrouvera un niveau plus raisonnable, les prix devraient, en théorie, le redevenir aussi.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pierre Herbulot. Dans un instant, un document RTL de Nicolas Georgerot. Notre journaliste a pu s'entretenir avec le double champion du monde de cyclisme, Julien Alaphilippe, hier, après son nouveau sacre en Belgique. Ne manquez pas ses confidences dans quelques instants. Bonne journée à tous, il est 7h17.
Pour joindre RTL, appelez le 3210.
50 centimes la minute.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Il est 7h19, il a donc réalisé ce qu'aucun coureur cycliste français n'avait fait jusqu'ici. Julien Alaphilippe a conservé son maillot arc-en-ciel de champion du monde hier en Belgique, un exploit retentissant qu'il fait entrer de façon indélébile dans l'histoire du cyclisme. Julien Alaphilippe s'est confié donc hier soir à Nicolas Georgerot et c'est un document RTL.
Bonjour Julien Alaphilippe.
Bonjour.
Quel moment, sincèrement, est-ce que vous pensiez que ça allait se dérouler comme ça ?
Jamais, sincèrement. On était venu ici avec l'ambition de faire une très belle course et d'essayer d'aller chercher le maillot, bien sûr. Ça, c'est indéniable, mais quand on a vu comment se déroulait le final, on était encore dans les derniers kilomètres bien représentés avec Florian Sénéchal et Valentin Madouas. J'avais dit à Florian de rester concentré en cas d'arrivée au sprint et de vraiment de se méfier. Et puis moi, j'avais carte blanche pour lancer la course, pour tester un petit peu l'adversité. Et à partir du moment où je me suis retrouvé devant, j'ai arrêté de réfléchir. Je me suis vraiment fait le plus mal possible, tout en pensant que ça pouvait aussi servir à Florian derrière. Mais j'ai commencé à y croire quand j'avais 15, 20, 25 secondes. J'ai jamais cessé d'y croire. Et plus les kilomètres passaient, plus je me rapprochais de la ligne. Et ça a été un grand moment. Ouais.
Quand vous êtes dans les 300 derniers mètres, que vous comprenez que vous allez être champion du monde, qu'est-ce qui vous passe par la tête ?
Ouais, c'est difficile de décrire cette émotion-là, c'est vraiment un moment spécial. Déjà gagner des courses, c'est toujours quelque chose de particulier, mais être champion du monde pour la deuxième fois d'affilée, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé avant d'arriver, même si bien sûr on venait pour essayer de gagner, c'était pas le scénario que je m'étais imaginé, donc je suis content pour moi, mais je suis content aussi pour l'équipe de France. Parce qu'on a vraiment couru à la perfection, tout le monde a rempli son rôle et c'était vraiment une belle course d'équipe.
Sur l'échelle des émotions, c'est plus fort qu'Imola ?
Ça n'a rien à voir, c'est pas à comparer pour moi. À Imola, c'était une émotion complètement différente, c'était la première fois que je remportais le championnat du monde, c'était tout de suite après le Tour. C'était une émotion qui n'a rien à voir avec celle que j'ai pu vivre aujourd'hui.
Tous les gens qui vous ont vu, qui ont commenté votre victoire sur les réseaux sociaux, qui vous ont vu sur les écrans, il y a encore évidemment tout ce qu'on répète avec vous, ce panache, cette envie, ce style. Vous êtes une locomotive, vous donnez envie aussi pour tous les jeunes qui veulent faire du vélo.
J'espère, si ça peut donner envie à des jeunes de faire du vélo, si ça peut faire plaisir aux gens, si ça peut procurer de l'émotion, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Moi, ma façon de courir, c'est moi, tout simplement. En fait, il y a pas de, je me cache pas, j'essaye pas de faire semblant ou de jouer un rôle. Je prends énormément de plaisir sur le vélo à faire comme je fais. Parfois, ça marche pas, parfois ça marche, mais quand ça marche pour des courses comme ça, c'est juste des moments qu'il faut savourer, quoi.
On vous a trouvé très serein il y a 3 jours avant l'échéance.
Bah, je l'ai bien vécu. J'en ai profité, tout simplement. J'étais heureux de rejoindre le groupe. On a eu une équipe tout de suite très soudée, c'est ce que j'ai pu ressentir. Un super état d'esprit, voilà. Thomas Vauclair avait à cœur de créer un groupe qui fonctionne sur ce genre de course, sur ce genre de parcours. Et il a eu raison, ça a marché. Et voilà, je suis aussi content d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, ne serait-ce que par l'état d'esprit et l'ambiance. Après, voilà, le résultat, je suis content pour moi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis content pour l'équipe de France parce que tout le monde a vraiment fait du gros boulot et c'était pas gagné d'avance.
Il est là, ce maillot arc-en-ciel juste à côté. Une saison supplémentaire avec, ça a été une saison et une année incroyable sur la route, sur le plan sportif et sur le plan personnel. C'est un tourbillon, en fait.
Moi, c'est une année qui marquera ma vie, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis devenu papa en milieu d'année. J'ai gagné sur le tour avec le maillot arc-en-ciel. Voilà, j'étais focalisé sur le championnat du monde là et ouais, ça marche plutôt bien. Et quand je me fixe quelque chose dans la tête, généralement je me trompe pas souvent. Ça peut arriver quand ça marche pas, mais là ça a marché.
Gagner Liège, Bastogne-Liège avec ce maillot, ce serait quoi l'aboutissement encore dans les prochains mois? Ce serait quelque chose?
Ouais, j'ai encore plein d'objectifs, bien sûr. Liège-Bastogne-Liège en fait partie, mais le Tour de Lombardie aussi et d'autres courses, tout ne s'arrête pas là.
Merci beaucoup, Julien Lafilippe.
Merci.
Je n'ai jamais cessé d'y croire, vient de nous dire Julien Lafilippe. Au micro RTL de Nicolas Georgerot, un document à retrouver sur notre site rtl.fr. Je vous rappelle la présence d'Éric Dupond-Moretti ce matin sur RTL dès 7h40 avec Alba Ventura pour la grande interview. Et puis, vous pourrez interroger le ministre dès 8h20 au 3210 et au 64-900 code matin. Éric Dupond-Moretti est avec nous jusqu'à 8h30.
RTL matin, Yves Calvi.
Il est 7h24, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Stephen Bell.
Bonjour à tous.
Avant-hier, on célébrait les 57 ans de l'enregistrement de My Girl.
Premier vrai succès des Temptations. Standard écrit par Smokey Robinson et Ronald White, membre des Miracles, 1964. Le groupe était en tournée avec les Temptations, un jour de concert dans les coulisses du mythique Apollo Theater de New York. Robinson travaillait au piano, White s'est approché et la chanson a été écrite rapidement. Quelques mois auparavant, Robinson était à l'origine d'une chanson très similaire sur le sentiment amoureux, mais du point de vue féminin, le tube My Guy offert à la chanteuse Mary Wells. Smokey Robinson, qui vient d'épouser Claudette, griffonne alors la version masculine, My Girl, mais les Temptations ont laissé traîner leurs oreilles et convaincre les Miracles de leur donner la chanson. Smokey Robinson, bras droit de Berry Gordy à la Motown, y voit aussi son intérêt et accepte. My Girl a été écrite avec toutes les chansons du monde dans mon esprit, confiera l'artiste. 3 ans plus tard, les Rolling Stones publient Flowers, une compilation pensée pour les États-Unis, et ils y glissent un inédit, une reprise de My Girl où Mick Jagger s'y révèle crooner. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees and me. I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Les Rolling Stones ont fait leur retour sur scène hier soir à Saint-Louis dans le Missouri. Steve Jordan était à la batterie, première tournée des Stones en 59 ans sans Charlie Watts, décédé en août dernier. Il nous manquera tellement sur et en dehors de la scène, a dit Mick Jagger cette nuit.
Merci beaucoup Stephen Bellery. À demain, on retrouve nos grosses têtes avec Laurent Ruquier et la météo de Louis Baudin dans un instant. Bonjour cher Louis.
Bonjour Yves.
A tout de suite, l'automne est là.
RTL Matin.
Les grosses têtes et Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous dès 15h30. Mais on va revenir tout d'abord sur la rencontre entre Yoann Riou et Fabrice.
Monsieur Riou, vous êtes content de voir Fabrice?
Ah oui, parce que c'est une légende absolue de la radio et de la télé et c'est un honneur absolu.
Vous aviez
pour
déjà
moi.
Fait les grosses têtes avec lui?
Non, jamais.
Non,
ma
jamais,
première fois,
jamais. Mais moi, je suis ravi de le rencontrer parce que je le vois très souvent.
Ah, c'est vrai, vous le connaissiez?
Ah, très bien. Je ne connais plus grand-chose, mais tout ce qui concerne le foot, oui, je suis.
Ah, et pour un type qui aime le foot, de rencontrer un type qui ressemble à un ballon, c'est
mais Fabrice, alors là, j'aurais été heureux de faire les Jeux sans frontières avec vous, ça aurait été énorme. J'aurais remplacé Marie-Ange Nardi.
Oui.
Ça aurait été génial, vous,
ah oui,
vous seriez occupé des Italiens, moi des Allemands. On aurait mis le feu à la télé française.
C'est la même.
Ah non, mais c'est
cependant,
pas
cependant, mon cher camarade, physiquement, j'ai plutôt un faible pour Marie-Ange.
Bah oui, là.
Faut pas m'en vouloir.
Lui, c'est Nardi gras.
La semaine est lancée, il vous donne rendez-vous dès 15h30. Oui, Baudin, notre météo.
Oui, avec l'arrivée d'une perturbation, oui, c'est la première d'une longue série où l'automne s'installe. Perturbation qui est dans le nord-ouest, qui sera entre les Pyrénées et la frontière belge en milieu de journée, puis qui arrivera dans l'est en fin de journée, très classique, d'ouest en est. Avant son passage, encore des éclaircies dans l'est, et après son passage, retour d'éclaircies dans l'ouest. Les températures, elles baissent un peu. Au nord de la Loire, 17 à 20 degrés seulement. Oui, on restera bloqué sous les 20 degrés, compris à Paris. 21 à 24 degrés de la région Poitou-Charentes au nord-est, et 24 à 27 degrés encore dans l'extrême.
RTL 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 27 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, SOS Médecins pose le stéthoscope. Dans une demi-heure, les 1300 généralistes de l'association cessent toute activité pendant 24 heures. Le président Jean-Christophe Masseron veut alerter sur l'insuffisance des moyens attribués aux visites à domicile.
Alors aujourd'hui, une visite à domicile en journée, c'est 35 euros. Le problème, c'est qu'il faut 3 quarts d'heure minimum pour faire une visite. C'est souvent assez complexe, puis il y a des temps de déplacement. Dans le même temps, vous voyez 3 patients au cabinet. Donc ça fait 75 euros si on compte le prix d'une consultation à 25 euros. Alors c'est très technique, parler d'argent comme ça, mais il y a une désaffection des médecins pour la visite à domicile qui provient tout simplement de son manque de reconnaissance financière.
Jean-Christophe Masseron, président d'SOS Médecins au micro RTL de Nathan Bocard.
Direction maintenant l'Allemagne, la succession d'Angela Merkel s'annonce compliquée.
C'est désormais officiel, les sociodémocrates du SPD remportent les législatives avec 25,7% des suffrages contre 24,1% aux conservateurs de la CDU. Mais le résultat est tellement serré que les deux candidats, Olaf Scholz et Armin Laschet, revendiquent tous les deux le droit de former le nouveau gouvernement. Les Verts, arrivés troisième, détiennent sans doute la clé. Écoutez, Daniel Freund, eurodéputé écologiste allemand qui parle très bien français.
Ça reste à voir, ça reste à négocier. Il est clair aussi qu'on a plus de similarités avec les social-démocrates si on regarde nos programmes. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que le prochain gouvernement, c'est un gouvernement du climat. Ça, c'est le plus important et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces négociations.
Un propos recueilli par Bénédicte Tassard. Les tractations pour bâtir une coalition débutent dès ce matin. Les partis espèrent aboutir avant Noël, un délai assez normal en Allemagne. Angela Merkel reste aux affaires pendant tout ce temps. Attention, si vous n'avez pas modulé votre prélèvement à la source, le Trésor public prélève aujourd'hui des sommes de rattrapage directement sur les comptes en banque. Cela touche 11 millions de foyers. Comment savoir si je suis concerné, Martial Liu ?
Vous êtes concerné si vos revenus ont augmenté au cours de l'année 2020. Si vous n'avez pas indiqué ce changement au cours des derniers mois aux impôts, cela n'a pas été pris en compte dans le prélèvement à la source. Aujourd'hui, c'est donc un rattrapage. La somme sera donc prise aujourd'hui directement sur votre compte en banque si vous devez moins de 300 euros. Si c'est plus, on vous prélèvera sur plusieurs mois pour éviter de mettre vos finances dans le rouge. Il y a donc 11 millions de foyers qui n'avaient pas payé assez d'impôts, mais il y a aussi 12,7 millions de familles qui en avaient payé trop et qui ont déjà été remboursées par l'État pendant l'été.
Martial Liu. La claque du jour, Ségolène Royal a échoué à l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger. L'ancienne ministre socialiste n'a recueilli que 2% des voix. C'est une élue écologiste qui entre à la Chambre. Emmanuel Macron a annoncé hier soir la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française, une sorte de Clairefontaine de la cuisine. Il devrait être basé dans la région lyonnaise. Il s'agit de défendre les métiers de bouche dans les compétitions internationales. Il faudrait aussi défendre les masques Made in France. Une vingtaine d'entreprises se sont créées avec avec la pandémie. Mais aujourd'hui, elle manque de débouchés car les achats en Asie restent majoritaires, même de la part des collectivités. Les fabricants lancent un appel au patriotisme. Le secteur emploie 10 000 personnes. Et c'est un secteur qui innove. La société Paul Boyer Technologies commercialise désormais un masque qui tue le virus. Il avait été conçu à l'origine pour lutter contre l'anthrax en cas d'attentat, mais il a été adapté. Explication du PDG Jacques Boyer.
C'est un avantage pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, c'est un avantage pour ceux qui ne veulent pas être vaccinés et qui peuvent trouver une alternative en disant ben, « moi, je peux porter un masque de protection et au moins avec ça, je risque rien ». Et puis, c'est aussi un avantage parce que quand vous enlevez le masque, il n'est plus porteur de virus. Un des vecteurs de contamination, c'est de toucher le masque parce que la partie extérieure du masque, elle est porteuse de virus. Mais celui-là, il les stoppe et il les tue.
Jacques Boyer au micro RTL de Patrick Tégérouve. Il faut en finir avec les cartables trop lourds, un problème dénoncé depuis des années par tous les ministres de l'éducation, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui s'y attaquent. La FCPE réclame une loi.
Il est 7h35, il est entré lui dans la légende du cyclisme. Julien Alaphilippe est désormais double champion du monde.
Le Français a conservé son titre en s'imposant à Louvain en Belgique en solitaire. Aucun tricolore n'avait réussi ça depuis le premier championnat en 1927. C'est dire la force de l'exploit. Alaphilippe adoubé par le patron Bernard Hinault.
On ne peut être que admiratif par rapport à tout ce qu'il fait. Son panache, son envie de gagner, ce que doit être un coureur cycliste normalement, de ce niveau. Parce qu'il avait quand même des concurrents en face de lui qui n'étaient pas non plus des mauvais. Et il a eu cette opportunité, il a attaqué au bon moment. Et puis les autres se sont regardés et ça lui a permis d'aller chercher la victoire.
Bernard Hinault dont On refait le sport hier soir avec Isabelle Langer sur RTL. Et puis en football, le PSG a un nouveau dauphin, c'est Lens qui a infligé à Marseille sa première défaite de la saison, 3-2. Cela dit, Marseille doit encore rejouer son match contre Nice.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et on aura de la lecture ce matin, Yves, les lettres anonymes que reçoivent régulièrement nos élus.
Spécialité française.
Exactement.
À tout à l'heure. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h36. Dans un instant, vous nous emmenez en Grande-Bretagne où l'impact du Brexit continue de troubler lourdement la vie quotidienne.
Yes, indeed.
Yes, indeed. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'anglais quoi avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, pénurie d'essence, étal vide dans les supermarchés, production agricole qui pourrit sur pied faute de récolte, mais qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Sa Majesté la Reine ?
This is the foutoir. bazar complet, c'est l'image que donne en effet le Royaume-Uni depuis quelques jours. Le réseau de stations-service BP vient d'annoncer qu'il avait fermé 1200 de ses points de distribution, faute de carburant. D'autres enseignes limitent la vente d'essence à 35 euros par personne, par crainte de vider leurs cuves. Dans les champs, ce sont les cultures de fruits qui ne trouvent plus de ramasseurs. L'industrie du poulet est elle aussi handicapée par le manque d'ouvriers agricoles. Et en cause, le manque de personnel étranger pour des secteurs qui, comme l'agriculture, recrutaient massivement en Europe de l'Est. Et surtout, manque de chauffeurs poids lourds, étrangers aussi, hein, ce qui explique les ruptures d'approvisionnement. Et pour le carburant, et pour la nourriture, il manquerait quelques 80 000 chauffeurs outre-Manche.
Faramineux, c'est à cause des pénuries de main-d'œuvre qu'on retrouve dans toute l'Europe ?
En fait, c'est pire. Il y a ça, effectivement. Mais s'y ajoutent les effets du Brexit. Mmh. Ou plutôt, l'entêtement du gouvernement britannique à ne pas accorder de visa de travail aux étrangers à cause du Brexit. Et jusqu'à ce week-end, Boris Johnson, le Premier ministre, était inflexible, laissant les pénuries s'aggraver. Et puis les unes des journaux pointant les files d'attente, les rayonnages vides, ont eu raison de lui. Samedi, il annonçait quelques milliers de permis de travail pour des chauffeurs étrangers et autant pour la filière avicole en souffrance. Une volte-face qui ne devrait pas suffire à rétablir les approvisionnements d'ici Noël, selon les fédérations professionnelles des secteurs concernés.
Ça veut dire, François, que ce n'est pas possible au Royaume-Uni de fermer ses frontières ?
Écoutez, en tout cas, le pays est très dépendant de la main-d'œuvre étrangère, dans les secteurs qu'on vient de citer, mais aussi dans la restauration qui souffre, dans le nettoyage, dans la santé, exactement comme en France. Et d'ailleurs, cette affaire peut avoir un écho avec notre campagne électorale où les propositions en matière de fermeture de frontières fusent. Hein, qu'on veuille substituer une main-d'œuvre nationale aux immigrés, pourquoi pas ? Ça peut être légitime, mais ça se prépare. Avec de la formation notamment, la revalorisation des carrières, etc. Et c'est l'affaire de plusieurs années. Fermer les frontières avant de disposer de la main-d'œuvre disponible, ça souligne encore une fois l'extraordinaire impréparation de ce gouvernement au-dessus duquel les nuages s'accumulent.
Ah bon, qu'est-ce qu'il menace ?
C'est des ordres, bien sûr, mais aussi l'envolée des prix de l'énergie, encore plus forte que chez nous. Le mécanisme de limitation des tarifs va être révisé pendant l'hiver et ça va avoir de fâcheuses conséquences sur le budget des ménages. De façon plus large d'ailleurs, l'inflation menace davantage que chez nous. C'est un vieux travers de l'économie britannique, elle va mordre sur le pouvoir d'achat. Parallèlement, les aides exceptionnelles qui avaient été consenties pendant la crise sanitaire, elles sont peu à peu démantelées, ça va amputer les revenus des familles modestes. Il n'en faut pas davantage pour que certains commentateurs pronostiquent le retour de l'hiver du mécontentement. On avait appelé ainsi l'hiver 78-79. Il avait été ponctué de grèves, de pénuries, de coupures d'électricité sous un gouvernement travailliste qui avait été balayé lors des élections du printemps suivant par une certaine Margaret Thatcher.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve aussi sur le site RTL.fr. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le rappel à la loi, c'est terminé. Vous savez, cette sanction inefficace qui faisait sourire les délinquants. Eh bien, le ministre vient annoncer le nouveau dispositif. L'avertissement pénal probatoire.
Les explications du garde des Sceaux sur RTL, c'est dans un instant. À tout de suite. Il est 7h42.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour Madame Ventura.
C'était une promesse qui avait été faite notamment aux policiers après la mort de leur collègue Éric Masson à Avignon dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. La fin du rappel à la loi parce que c'est une mesure qui n'est pas efficace. D'ailleurs, comme le dit le secrétaire général du syndicat Alliance, pour l'individu interpellé, c'était pampan cucu et c'est tout juste, il ne rigolait pas en partant. Donc fini le rappel à la loi. Par quel dispositif plus ferme, Monsieur le Ministre, allez-vous le remplacer ?
Par une disposition qui s'appelle l'avertissement pénal probatoire. On a travaillé avec les députés. J'avais annoncé à l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, qu'à l'automne, le rappel à la loi serait supprimé. On a travaillé évidemment avec les députés, avec les sénateurs, bien sûr, avec les magistrats et les magistrats de terrain. Et nous proposons, je proposerai, j'aurai l'honneur de présenter cette réforme cette semaine au Sénat, l'avertissement pénal probatoire.
Et donc, ça concerne qui, par exemple ? Donnez-moi un exemple.
Je voudrais vous dire deux petits mots sur le rappel à la loi, pour vous dire l'importance qu'il a dans notre procédure actuelle. C'est 270 000 décisions prononcées tous les ans. C'est 30% de la réponse pénale, et c'est, si j'ose dire, le premier barreau de l'échelle des sanctions. Oui. Ça va du rappel à la loi à la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais comme le disais, ça fait doucement rigoler les délinquants.
Alors, ça ne fait pas rigoler les gens honnêtes, qui sont attentifs au rappel à la loi, mais les autres, ils disent même pas mal. Donc, on a souhaité évidemment supprimer ce rappel à la loi, et qui était devenu totalement obsolète. Parce que ça générait au fond un sentiment d'impunité insupportable, et puis une grande frustration chez les policiers, chez les magistrats qui avaient le sentiment de bosser pour rien.
Donc on est plus ferme maintenant avec cet avertissement pénal probatoire.
Alors on est plus ferme, mais
on est plus efficace.
Ça concerne toujours, s'agissant du premier barreau de l'échelle des sanctions, des infractions qui ne sont pas les plus graves, bien sûr.
Comme quoi ?
Oh, comme un tag, par exemple, comme des violences légères, comme des dégradations. Il y a d'autres exemples. En fait, tout ce qui permet...
Tout ce qui pourrit la vie.
Tout ce qui pourrit, bien sûr, tout ce qui pourrit la vie de nos compatriotes. Alors, on est plus ferme, oui, et on est plus intelligent, me semble-t-il.
Comment ?
D'abord parce que dans l'avertissement pénal probatoire, il y a probatoire. Ça veut dire que durant une année, il y a une mise à l'épreuve. Aujourd'hui, rappel à la loi... Je te rappelle la loi. Le gamin, parfois, il sort en disant « lol, même pas mal ». Aujourd'hui, c'est un avertissement. Et durant un an, si une nouvelle infraction est commise, l'intéressé sera jugé pour la nouvelle infraction. Ça va de soi. Mais également pour celle qui lui a valu le rappel à la loi. Deuxième modification, on va éliminer tout ce qui est violence. Violence légère, mais les violences. Troisième modification, importante, très importante, pour que l'avertissement pénal probatoire soit prononcé, il faudra que l'auteur ait préalablement indemnisé la victime ou qu'il ait réparé les dommages qu'il a causés. Et enfin, ça va être désormais exclusivement prononcé par la justice, c'est-à-dire les procureurs, les délégués du procureur, parce que je veux donner un peu de solennité à cette première décision.
Monsieur le ministre, ça n'aurait pas été plus efficace ou plus réparateur de condamner à des travaux d'intérêt général ?
Alors, le travail d'intérêt général, c'est une peine prononcée par une juridiction. Avant le travail d'intérêt général, il y a le travail non rémunéré, qui est une alternative à la poursuite prononcée par le procureur ou le délégué. Mais on est dans la gradation. Mmh. On a le rappel à la loi qui va être supprimé, le nouvel avertissement pénal probatoire, le travail non rémunéré, le travail d'intérêt général, l'amende, il y a toute une gradation. Et pour conserver les équilibres, le premier barreau de cette échelle, c'est désormais l'avertissement pénal probatoire.
Vous savez que l'accusation qui revient souvent, alors bien évidemment ça va au-delà, c'est le manque de prison, Éric Dupond-Moretti. Combien y a-t-il de prisons qui sortent de terre en ce moment ?
7000.
En ce moment ?
Oui, bien sûr. 7000 prisons. Allez donc à Caen, au Mans, à Valence, à Meaux, à Avignon. À Lutterbach, la prison est définitivement sortie de terre. Ça, c'est à l'horizon 2022. 7000 places. Investissement considérable en matière budgétaire, c'est plus 62% du crédit. Et c'est aussi, madame, 8000 places qui sont engagées et qui verront le jour avant 2027. 8000 places, c'est trouver les terrains. Et c'est pas simple de trouver les terrains. J'entends quelques politiques qui viennent ici se tortiller à votre micro pour dire que...
Il n'y a pas assez de place,
ouais,
de prison.
Mais c'est ceux-là qui ne veulent pas de prison dans leur circo. Vous comprenez ? Donc c'est un boulot énorme. Il faut convaincre tous les élus. Il faut les rencontrer. Il faut faire expertiser la viabilité sur le plan de la faisabilité technique. Moi, je préfère le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui dit « Ok, pour une nouvelle prison à Angers, on a signé ça il y a 15 jours. » Donc, 7000 en cours de construction, certaines déjà construites, 8000 qui verront le jour avant 2027. Programme 15 000. Dans son discours de 2018, le président de la République avait dit « Dans 10 ans, eh bien, il sera au rendez-vous de cet engagement. Le président de la République et les places de prison seront construites. »
Monsieur le ministre Éric Dupond-Moretti, on ne compte plus les faits de violence qui impliquent des mineurs. Hein. Chaque semaine sont faits divers dramatiques, comme la semaine dernière au Lila, en Seine-Saint-Denis. Un mineur de 17 ans a tué d'un coup de couteau un autre mineur de 16 ans. Aucun des deux n'était connu des services de police. Vous avez fait voter un nouveau code de justice pénale des mineurs, qui entre d'ailleurs en vigueur cette semaine, qui remplace l'ordonnance de 45, tant de fois réformée. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce nouveau code, on va considérer que l'auteur des faits, qui n'a que 17 ans, est jugé comme responsable de son acte ? C'est ça que ça veut dire ?
Entre autres, je l'ai amené avec moi, le code de justice pénale des mineurs. C'est un travail colossal qui a été engagé. Il a fallu 10 ans pour qu'il soit enfin élaboré.
Nicolas Sarkozy en a rêvé, vous l'avez fait, c'est ça ?
Je peux pas le dire comme ça, c'est un travail de co-construction, mais je suis très fier d'avoir porté ce texte et il réforme l'ordonnance mythique qui est l'ordonnance de 45 du général de Gaulle, prise après la guerre, à raison du fait notamment qu'il y avait beaucoup d'orphelins et donc beaucoup de délinquance. Ce texte, il permet, madame, et c'est une révolution, de juger des gamins dans des temps très courts. Il n'y avait pas de délai avant, ça veut dire qu'un gamin qui commettait une infraction pouvait être jugé 2 ans après, quand il était devenu adulte. Il pouvait être marié, avoir 2 enfants et un boulot. Ça n'avait aucun sens. C'était du temps judiciaire perdu. C'était surtout du temps pédagogique perdu. Il y a les deux volets dans ce code justice pénale des mineurs. Il y a évidemment le volet éducatif.
On dit que c'est plus répressif qu'éducatif, justement. C'est l'accusation qu'on vous porte.
Oui, mais vous savez, on est accusé de tout. Alors une fois, c'est d'être laxiste. Une fois, c'est d'être répressif. Ce code, il est parfaitement équilibré. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, là aussi, que j'entends des prétendants à l'élection présidentielle qui disent on va modifier la justice des mineurs et qui ne savent même pas que les députés de leur propre famille ont voté ce texte. Il a été voté à l'unanimité ou presque, ce texte. Et donc, ça signifie que les mesures sont équilibrées. Oui, maintenant, les gamins, ils vont pas rester 2 ans sans être sanctionnés. Ils vont recevoir une décision de condamnation, si c'est une condamnation, bien sûr, avec la pédagogie qui va avec. Et c'est fondamental, ça.
J'ai une question d'actualité pour vous. Vous avez sans doute vu ce mur érigé entre Paris et Pantin par la préfecture de police pour empêcher les consommateurs de crack de venir dans la capitale. On a déplacé ces drogués, d'ailleurs, de quelques kilomètres. Donc, on a fait déplacer le problème sans le régler. Mais Éric Dupond-Moretti, ce mur, c'est une solution ?
Non. Non, c'est une solution forcément transitoire, ça ne peut satisfaire personne.
Le mur de la honte, disent les
habitants. Il y a deux problèmes. L'addiction au crack est tellement forte que vous avez des gens qui sont en danger de mort, et très très rapidement, puis vous avez toutes les nuisances pour le voisinage. Moi, je me mets à la place de celui qui a acheté un appartement dans un quartier, qui est envahi par des craqueux. Alors, je vais vous dire, madame, je suis en train de travailler sur cette question.
Comment ?
Très sérieusement. Et je viendrai vous faire les annonces assez rapidement, je pense, parce qu'on est en train de réfléchir à des solutions pérennes.
Ça veut dire enfermer ces personnes, les mettre dans des structures ?
Ça veut dire, madame, que je suis en train de travailler, j'ai pas l'habitude de faire de la rodomontade, je veux travailler sérieusement, efficacement. Dans quelques semaines, dans quelques jours, mon projet sera avancé, je le présenterai d'abord à l'exécutif, et puis ensuite, naturellement, quand tout sera prêt, je vous en ferai une présentation complète.
Mais en attendant, il faudrait le détruire, ce mur, pour laisser les habitants aller et venir.
Je vous ai dit, madame, je vous ai répondu, c'est une mesure transitoire qui ne satisfait personne, mais on est là dans une espèce de d'urgence, et il faut répondre pour le moment dans l'urgence, et moi j'y répondrai de façon plus précise dans les jours qui viennent, c'est ce que je viens de vous dire.
On vous attend dans le studio, puis vous allez revenir très vite avec nos auditeurs.
L'avertissement pénal probatoire devient donc le premier barreau de l'échelle des sanctions, vient de nous dire le garde des Sceaux. Et quant au nouveau code de justice pénale des mineurs, ce texte est une révolution. Il permet de juger des gamins dans un temps beaucoup plus court, nous a dit Éric Dupond-Moretti. En effet, le ministre sera avec nous dès 8h20. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 3210 ou par SMS au 64 900. Code matin, à tout de suite, monsieur le ministre. Merci Alba, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. L'œil de Philippe Cadrivière, dans un instant, avec vous, Éric Dupond.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
7h56, bonjour Philippe. Éric Dupond-Moretti reste pour votre chronique.
Bonjour Éric Dupond-Moretti. Pardon, quand j'ai peur, je pars un peu dans les aigus. Contrairement à vous,
madame,
c'est quand même plus classe que, comme voix. Bon, Éric Dupond-Moretti, bonjour. Vous avez une Harley, j'ai un scooter. Vous fumez le cigare cubain, j'ai une vapoteuse chinoise. Vous êtes ministre de la Justice, je suis chroniqueur sur RTL. Votre compagne est une des plus grandes chanteuses québécoises. La mienne me fout la honte dans tous les karaokés. Ma question est simple. Est-ce que j'aurais pas un peu raté ma vie ? Cela dit, j'ai passé plusieurs années à la barre. J'ai fait un peu de pole dance au Pink Paradise. En amateuse, c'est là qu'avec Louis Boudin, Yves nous a recrutés d'ailleurs.
Bien sûr.
Éric Dupond-Moretti, vous avez déclaré « Quiconque se prend trop au sérieux est condamné à mourir d'ennui ». On a eu 2-3 invités ici à la matinale qui doivent être en soins palliatifs, les pauvres.
Bon, Philippe...
Pas les noms, mais elle se reconnaîtra.
Je crois que vous avez du respect, même de l'admiration, m'avez-vous dit, pour la profession d'avocat.
J'aime les avocats, j'ai une tendresse particulière pour Randall Schwendorfer, l'avocat de Jonathan Daval. Qu'on appelle Maître Krados quand on le voit sur BFM, on se dit putain c'est le suspect, il sort de 72 heures de garde à vue, non c'est Maître Krados, c'est l'avocat, il arrive de chez lui sans passer par la douche.
Vous savez qu'Éric Dupond-Moretti a été acteur au cinéma, notamment il a joué sous la direction de Claude Lelouch.
Les avocats sont très souvent d'excellents comédiens. Tiens, prenez l'avocat de Cédric Jubilard, vous savez Cédric Jubilard, monsieur propre là, qui fait les lessives à 3h24 du matin alors que sa femme a disparu. Alors faut la sortir sans bégayer quand même, mon client est innocent.
Tu bluffes, Martoni.
Moi, je vote et je dis bluff.
Ben, moi, pareil que Dominique Farrugia, je vote, je dis bluff.
Alors, ce week-end, Éric Zemmour était invité par Viktor Orban au sommet de la démographie qui abordait la question du grand remplacement.
Ouais, pour notre Éric Zemmour. Oh là, c'était une sortie à Disneyland.
Oui.
Oh, il y avait des nationalistes, des homophobes, il était au manège et tout. Il avait ses grands yeux d'enfant qui pétillaient. Il n'avait pas été aussi heureux depuis l'élection de Pétain, ça date. Hein. Et ce dimanche, Monrico était de retour au bercail sur CNews avec Sonia Mabrouk. Ah, il continue le Zemmour tour en chantant son unique tube sur l'immigration. Alors, ça n'a pas un chouï lassé. C'est comme si Patrick Bruel, il chantait 30 fois Place des Grands
oui,
Hommes.
C'est ça.
La chanson, elle est bien, mais au bout de 25 fois, t'en as marre un petit peu.
Quoi. Éric Zemmour a une nouvelle fois été interrogé sur sa volonté d'imposer des prénoms français.
Là, je tiens à le défendre, hein, parce qu'il n'a pas qu'un problème avec Mohamed et Karima. Il veut aussi interdire Kevin et Jordan.
Oui.
Pas parce que c'est d'origine étrangère, juste parce que c'est moche. Et c'est pas faux. Kevin et Jordan, c'est... C'est quand même moche, hein, pour nos auditeurs. Hein.
Vous allez nous parler maintenant de la succession d'Angela Merkel, peut-être ?
Ah oui, ah bah, les élections législatives en Allemagne, sujet qui passionne les Français. Je sens que le studio réagit tout de suite. C'était un suspense terrible, hein, de Armin Laschet du CDU ou Olaf Scholz du SPD. On voulait tous savoir. Non, je déconne, on en a rien à foutre. Déjà qu'on en a rien à foutre chez nous des législatives, alors chez eux. En tout cas, Merkel a déclaré à l'annonce des résultats, elle est très ferme sur ce point. Hein. Oui. Die Kanzlerkandidat von Union und SPD Armin Laschet und Olaf Scholz wollen mit Blick auf die Ersten Ausrechnung beide die Kommen Bedesregierungen führen.
J'ai pas fait allemand seconde langue, ça veut dire.
Ah ben j'en sais rien, je parle pas allemand, mais je suis pas correspondant à Stuttgart.
D'accord. Alors on parle beaucoup de la question de la drogue avec des évacuations de toxicomanes à Paris. Vous avez une solution nouvelle à proposer, je crois.
La drogue est un fléau, mais je pense qu'il faut au moins dépénaliser les drogues douces en fonction des villes. Quand la ville est trop moche, il faut même la rembourser.
Oh non.
Les gens qui habitent Grenoble ou Sochaux... Et bien sûr, Maubeuge, où vous êtes né, mais on m'a dit que dès que vous avez su marcher, vous êtes barré de Maubeuge, bien sûr.
Mais ah, ben, je perds l'invité, la balancée du Isabelle Boulay.
Excusez-moi pour le retard.
L'œil de Philippe Cavrédi, chaque matin à 7h55 en direct et quand vous le voulez sur le site RTL.fr. On vous retrouve à 8h20, monsieur le ministre, et nous avons rendez-vous dans un instant pour le journal de 8h avec Dominique Tenza. RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Votre journal, Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, les magasins de bricolage, victimes à leur tour de rupture de stock.
Étagères, fenêtres en bois, perceuses électriques, certains rayons sont vides et la pénurie pourrait durer des mois. Reportage à suivre. Vers un long bras de fer en Allemagne après la victoire ultra serrée cette nuit des sociodémocrates, il faut désormais négocier la future place de chancelier. La France ne sait plus quoi faire de ses masques. Cela paraît fou après avoir manqué de stock. Notre pays en produit désormais bien plus qu'il n'en faut. Comment en est-on arrivé là? Le décryptage à suivre de la brigade RTL. Nous évoquerons également ces vergers du Roussillon pillés par des voleurs de fruits et légumes. Et puis un pas de plus dans l'histoire pour Julien Alaphilippe, le coureur sacré champion du monde de cyclisme hier pour la deuxième fois.
Cyprien Signe, nous avons rendez-vous avec vous dès la fin du journal.
On va s'intéresser au mystère Angela Merkel.
Rendez-vous est pris.
RTL Matin.
Mais pour démarrer ce coup de pouce présidentiel destiné aux employés de la restauration et notamment aux serveurs et serveuses qui souvent ne comptent pas leurs heures et pour qui le pourboire constituait parfois avant la crise un complément de revenu substantiel. Mais voilà, le sans-contact est passé par là et les habitudes ont un peu changé. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Emmanuel Macron va donc annoncer tout à l'heure la défiscalisation des pourboires. Expliquez-nous.
Oui, les pourboires payés avec la carte bancaire. Le sans-contact a donc changé effectivement nos habitudes. Dans le dernier baromètre Panorabank, 8 Français sur 10 déclarent payer en son contact désormais depuis le Covid. Donc c'est un bond énorme évidemment en quelques mois et ajoutez à ça l'absence de touristes étrangers qui laissaient les pourboires dans les grandes villes. Vous aviez une chute de 50% du pourboire pour les serveurs depuis quelques temps. Désormais, quand vous réglerez l'addition avec votre carte, vous pourrez ajouter une petite somme pour le serveur qui ne sera pas fiscalisée. Elle lui sera directement reversée sans impôt. La crainte des restaurateurs avec la carte, c'était la trace laissée par la transaction, alors que le pourboire, on le sait, il est au black, hein, classique. Donc cette fois, tout le monde sera logé à la même enseigne. Le pourboire représente en temps normal 5 à 10% du salaire. La défiscalisation, c'est aussi le moyen de faire revenir ou d'attirer les serveurs, puisqu'il en manque, je vous rappelle, 100 000 en France depuis la fin du confinement.
Merci, Martial Youx. Le chef de l'État qui a également annoncé hier la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française qui devrait être installé dans la région lyonnaise. L'objectif est de défendre et de promouvoir les métiers de bouche.
8h03, des rayons quasiment vides et des stocks épuisés. Les magasins de bricolage et d'ameublement sont donc à leur tour impactés par le manque mondial de matières premières.
Oui, c'est un peu le revers de la médaille après la très forte reprise économique post-Covid. La demande est telle que l'offre ne suit plus. Et les conséquences se font désormais sentir chez les particuliers. Changement de fenêtres, isolation, travaux de menuiserie, armez-vous de patience. La pénurie ne fait que commencer. Pour RTL, Vincent Serrano a fait le tour de plusieurs magasins spécialisés et son constat est partout identique.
Sur le parking à la sortie, Evelyne sort de son sac en bandoulière un carnet, un stylo et barre le nom du magasin qu'elle vient de quitter. Le sixième sans trouver ce qu'elle recherche, un peu excédé.
Ah bah oui, j'ai un chantier qui est arrêté depuis 3 mois. Pour moi, c'est vraiment le bois et j'en viens d'ailleurs à prendre des choses sur le bon coin, tout ça en accord avec mes clients pour travailler autrement et pas perdre de temps.
Du bois d'occasion.
Du bois d'occasion et c'est très pénalisant, ça énerve un peu.
Et elle est loin d'être la seule. 5 minutes plus tard, c'est au tour d'Anne-Marie de ranger sur le parking son chariot vide.
L'alu pour mes fenêtres, ils n'ont pas de date à me donner. Il a commandé mes fenêtres il y a 3 mois et demi et qu'aujourd'hui, le chantier ne peut pas commencer parce qu'il n'a pas mes fenêtres.
Ce que lui a aussi dit le vendeur ici, c'est que les prix risquent d'augmenter. Alors au-delà des matériaux, plusieurs trous commencent à apparaître dans les rayons outillage de plusieurs magasins, notamment celui que gère Thomas.
dans le centre de Paris.
Ce qui va amener à manquer, là, ça va être les... juste les six sauteuses. Il manquerait juste les modèles d'expo. Et c'est comme ça sur pas mal de produits, ouais, en outillage.
Si je veux les commander, c'est plus commandable.
Des problèmes d'approvisionnement, a priori, au niveau des moteurs. Donc il y a du composant électrique, il y a les charbons, il y a les aimants, tout petit truc en général qui pose problème. Et ça arrive tout le temps.
Et la réponse qu'il donne à ses clients mécontents est toujours la même. Revenez dans quelques semaines, on aura peut-être quelque chose à vous proposer.
Un reportage signé Vincent Serrano. La colère à présent des habitants de Seine-Saint-Denis face à ce qu'ils ont surnommé le mur de la honte érigé entre la capitale, Paris, et la ville de Pantin. Des blocs de parpaings censés empêcher les consommateurs de crack de l'Est parisien d'emprunter un tunnel qui les mène donc en Seine-Saint-Denis. Solution jugée dérisoire par des riverains désabusés. Valentin Boisset, vous vous êtes rendu sur place, vous avez pu discuter avec eux et rencontrer également ces toxicomanes qui manifestement n'ont besoin que d'une chose, de l'aide.
Oui, des tentes sont installées à gauche du mur de parpaing que fixe Jojo. Il a 46 ans, 10 ans qu'il fume du crack après avoir perdu son emploi.
Crack, c'est ça la vie, il n'y a pas le choix.
Son impair est troué, il n'a plus de chaussures. Il dit avoir suivi pendant des années ce qu'il nomme les transhumances au gré des évacuations de police.
On était à La Chapelle, après on est parti à Aubervilliers, après on est parti à Stalingrad, maintenant on est là.
Dans sa main, il tient un morceau de cellophane, le reste de sa dose précédente.
Comment vous aimeriez arrêter le crack?
Ouais, comment? Il n'y a personne qui nous aide.
Puis il s'isole 20 minutes, revient, frappe le sol et prétend être président de la République. Il vient de prendre sa dose. C'est délire, c'est ce que craignent les habitants. 50 mètres plus loin, certains toxicomanes contournent déjà le mur qui doit les contenir et se retrouvent dans une rue commerçante.
Nos enfants ne voudront plus passer par là.
Sarah a donc imprimé des tracts, non au crack, elle habite près du square.
Il y a eu des agressions déjà depuis vendredi. Déjà que nous avons des problèmes, on nous en apporte un autre. Et pourquoi Pantin ?
Puis la trentenaire prend le mur en photo, un graffiti vient d'apparaître, on peut y lire le mur de la honte.
Un reportage signé Valentin Boisset.
Il est 8h06 en Allemagne, la victoire très serrée hein, cette nuit du SPD. Les sociaux-démocrates remportent les élections législatives.
D'une courte, très courte tête avec 25,7% des suffrages, juste devant la CDU, le parti conservateur d'Angela Merkel. Les deux formations sont au coude à coude, ce qui laisse présager dans les jours, les semaines à venir de longues discussions. Qui sera là ou le futur chancelier? Quelle alliance pour diriger l'Allemagne? Bonjour Bénédicte Tassard.
Allô Dominique, guten Tag, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Berlin. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra une coalition, Bénédicte, pour former le futur gouvernement. Et pas simplement entre deux partis, mais sans doute trois cette fois.
Ah oui, il va falloir se mettre à trois pour obtenir la majorité absolue au Parlement. Et une coalition, un gouvernement avec trois partis à l'intérieur, c'est une première. Les deux scénarios les plus probables, les centres-gauches du SPD, couleur rouge, les libéraux, couleur jaune, et les verts, ça donne une coalition qu'on appelle ici feu tricolore. Ou alors, les centres-droits de la CDU, couleur noire, les libéraux jaunes et les verts, ça c'est la liste jamaïcaine. Les verts et les libéraux vont donc négocier avec le SPD, mais aussi la CDU, et poser leurs conditions. Pour les Verts, il faut que le programme du futur gouvernement comprenne la sortie du charbon pour 2030 et un budget plus dépensier. Les libéraux du FPD, eux, sont opposés aux hausses d'impôts pour les plus riches. Vous le voyez, ça ne va pas être simple. Alors, ce matin, tous les leaders se réunissent et annoncent avec qui ils veulent négocier. Ça sera le top départ. Ça peut durer jusqu'à Noël, mais en tout cas, une chose est sûre, le prochain chancelier sera un homme, le social-démocrate Olaf Scholz ou le chrétien-démocrate Armin Laschet.
Merci Bénédicte Tassard qui suit pour RTL ses législatives en Allemagne. En France, c'est le PS qui regarde avec envie ses résultats à Outre-Rhin. Anne Hidalgo a d'ailleurs relayé sur les réseaux sociaux les scènes de joie au siège du SPD. Une source d'inspiration, explique celle qui est tombée ce week-end à 4% d'intention de vote dans les sondages. Et puis la claque électorale du week-end, elle a été reçue par Ségolène Royal, l'ancienne ministre, sèchement battue hier au sénatorial alors qu'elle briguait le poste des Français de l'étranger. Elle n'a réuni que 2% des suffrages, 11 voix sur 533.
Qui l'eût cru ? La France produit trop de masques. Comment, en quelques mois, sommes-nous passés de la pénurie à l'excès ? On va vous expliquer tout ça dans un tout petit instant sur RTL. Bonne journée à tous, il est 8h08.
RTL Matin.
RTL, il est 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. Acheter français, c'est l'appel que lancent ce matin les producteurs de masques Made in France.
Car après avoir connu la pénurie il y a un an et demi, notre pays est désormais autosuffisant. Nous ne sommes donc plus obligés d'en importer. Pourtant, la filière française est inquiète. Et la brigade RTL va nous aider à y voir plus clair ce matin. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Comment en est-on arrivé là ?
Eh bien parce que l'État, les collectivités, les administrations, les entreprises qui fournissent des masques à leurs salariés, puis nous aussi, les consommateurs, eh bien on continue d'acheter en Asie. nazis. Exemple, 70% du milliard de masques pour reconstituer des stocks stratégiques ont été importés. Dernière commande de l'armée, 15 millions de masques. Dernière commande du ministère de l'Intérieur, 40 millions de masques. Eh bien, ils ont été achetés en Asie ou à des importateurs.
Et pourquoi ? Parce que c'est moins cher ?
Évidemment. Le masque français est 3 fois plus cher, 6 centimes pièce en moyenne contre 2 centimes pour le masque d'import. Mais selon le syndicat des fabricants, en achetant un masque français, on restitue 70% de sa valeur économique en France, 15% seulement pour le masque d'import. Et on préserve donc les 10 000 emplois directs et indirects de la filière.
Bon, alors quelles sont les solutions ?
Faire évoluer les mentalités, y compris celles du consommateur qui achète ses masques au supermarché ou à la pharmacie, mais aussi modifier la façon dont sont rédigés les appels d'offres. Aujourd'hui, 2 critères sont retenus : le prix qui pèse 80% et les délais qui pèsent 20%. Forcément, là, les fabricants français sont battus. Mais si vous modifiez les cahiers des charges en imposant des critères sur l'environnement, les RSE, les conditions de travail, les garanties d'approvisionnement, là, la France devient concurrentielle. 25 entreprises sont capables de fournir jusqu'à 100 millions de masques par semaine. Ouais. Elles étaient 4 en janvier 2020. C'est ce qu'on appelle une relocalisation réussie. Mais jusqu'à quand ?
C'est toute la question. Merci beaucoup Sophie Orange, la brigade RTL ce matin.
Partons à présent dans les Pyrénées-Orientales où les producteurs de fruits et légumes font face à un véritable fléau.
Le vol récurrent depuis plusieurs années des tonnes de marchandises qui disparaissent chaque saison pour être revendues au marché noir. Pêche, pommes, abricots, des milliers d'euros de pertes pour les agriculteurs catalans. Vous l'avez constaté sur place, Patrick Hisson.
Oui, illustration de ce phénomène à Toreil sur l'exploitation d'Alexis Blasi où 300 kilos de fruits et légumes ont été dérobés par un couple interpellé quelques jours plus tard.
Un préjudice de 1500 euros environ, quoi, avec des melons, des pastèques, des tomates, des poivrons. Donc c'est autre chose que si quelqu'un se sert parce qu'il n'a pas à manger, ça fait râler, mais on comprend. Pour en faire du business, c'est quand même autre chose, quoi.
Le phénomène s'est intensifié cet été avec parfois d'impressionnantes quantités prélevées. Bruno Villa est le président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales.
1, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes de légumes ou de fruits, avec du matériel de récolte, avec du monde pour récolter, souvent la nuit. Forcément, donc, c'est des gens qui sont organisés.
D'où la colère, parfois, des producteurs déjà touchés par le gel qui a fait beaucoup de dégâts cette année.
La production qui vous reste, on vient vous en dérober une partie. Ça peut générer des réactions vives et on pourrait avoir un accident si y a des producteurs qui tombent sur des gens qui sont en train de leur dérober leur production, quoi.
Les vols de matériel et d'essence sont eux aussi plus fréquents et les agriculteurs sont souvent sans solution pour se protéger sur des exploitations de plusieurs hectares.
Un reportage signé Patrick Hisson pour RTL.
C'est très impressionnant. À 29 ans, son nom est désormais inscrit en majuscule dans l'histoire du cyclisme français.
Julien Alaphilippe, oui. Une nouvelle fois sacré champion du monde de cyclisme, hier à Louvain sur les terres de Flandre, premier français à conquérir 2 titres depuis les débuts de cette compétition dans les années 20. Nicolas Georgerot.
La fête a été longue, très longue, à l'hôtel de l'équipe de France. Julien Alaphilippe qui danse au milieu de ses équipiers, au milieu du staff, il veut profiter, savourer.
Forcément le premier restera à jamais gravé, mais là j'ai même pas réalisé en fait encore que je l'ai. Je pense que c'est celui que j'avais avant-hier, j'ai pas réalisé quoi.
Sa compagne Marion Rousse est juste à côté, elle avoue avoir été bluffée par la course du chef de file du cyclisme tricolore.
C'est incroyable déjà ce qu'il avait fait l'année dernière, mais là de pouvoir doubler, c'est quand même quelque chose d'être attendu. Et de toujours répondre présent quand tu l'annonces. C'est pas tout le monde qui peut le faire, donc il me surprend dans ce sens. Ouais.
Quelques jours pour souffler, mais dans 2 semaines, son nouvel objectif avec son maillot arc-en-ciel, le Tour de Lombardie, cette classique, ce monument du cyclisme qu'il n'a encore jamais remporté.
Nicolas et Georgerot.
Et vous pouvez retrouver en longueur l'entretien de notre champion réalisé par Nicolas Georgerot sur notre site rtl.fr.
En football, le Paris Saint-Germain a désormais un nouveau dauphin, Lens, qui a infligé à Marseille sa première défaite de la saison, 3-2, même si l'OM compte toujours, je vous le rappelle, un match en retard. Monaco l'emporte 3-1 à Clermont, même score pour Reims face à Nantes. 1 partout entre Bordeaux et Rennes et entre Troyes et Angers. Et puis Metz sort de la zone rouge avec une précieuse victoire, 2-1 face à Brest. En rugby, Toulouse reste sur un sans faute avec une victoire 27-15 sur Clermont.
Le journal nous était proposé par Dominique Tenzan. On se retrouve pour le point de l'actualité à 9h et on s'intéresse maintenant à notre météo avec vous, Louis Baudin.
Et oui, le retour des perturbations, de la pluie, du vent. On a eu plus de 100 km/h ce matin du côté des côtes bretonnes. Oui, on avance bien dans l'automne. Cette perturbation aussi, elle avance bien sur la France. Elle sera à la mi-journée entre les Pyrénées, l'Île-de-France ou encore le Nord. Dans l'Est, profitez de la matinée avec encore quelques rayons de soleil. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, la pluie arrivera en toute fin de journée. Puis après son passage dans l'Ouest, c'est classique avec une perturbation. Retour de quelques éclaircies avec encore des averses. Le vent atteindra encore 60 km/h au moins au nord de la Loire et surtout près de la Manche. Puis les températures, elles baissent gentiment de jour en jour. 17 à 20 degrés, pas plus cet après-midi au nord de la Loire, entre 21 et 24 degrés la région Poitou-Charente au nord-est et encore 24 à 27 degrés dans l'extrême sud.
La météo nous était proposée par Louis Baudin. Et vous savez qui on va retrouver dans un instant? Eh bien Cyprien Sini qui va nous intéresser au mystère Angela Merkel.
Tchuss Mouti.
Un mystère.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Vous surfez ce matin, Cyprien, avec Madame Angela Merkel.
Ben oui, parce qu'en ce lendemain d'élection allemande, a priori, ben ça y est. Au revoir Angela. Enfin, Mouti, maman, comme la surnomme affectueusement les Allemands, et ce mystère donc pour nous Français. Elle passe 16 ans au pouvoir, et elle part volontairement, alors que trois quarts des Allemands sont toujours satisfaits de son bilan. Et battant, inimaginable ici d'ailleurs, les quatre présidents français qui l'ont côtoyé ont tous été, eux aussi, amadoués, voire amoureux, politiquement évidemment. Oui.
Je voudrais simplement te dire du fond du cœur toute mon estime.
Jacques Chirac, qui lui a fait le baise-main. Hein, François Hollande, foudroyé.
Entre nous, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité.
Sans oublier un Nicolas Sarkozy, lucide dans l'analyse.
Elle est froide au sens qu'elle vient de l'Est, je suis chaud au sens que je viens de la Méditerranée.
Ah, il est chaud le Sarko, séduit par la femme forte, élue 14 fois femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes, capable de rendre dociles les plus fervents opposants. Prenez Arnaud Montebourg, quand il était ministre, qui disait en sortant les muscles...
Il est hors de question d'accepter les diktats de Madame Merkel. Voilà. La politique à la Bismarck de Madame Merkel.
Méchante Madame Merkel, mais alors une fois qu'elle est réélue...
Nous adressons les félicitations... Ah, Madame Merkel.
Oh, bravo, Madame Merkel, à deux doigts de s'excuser, dites donc. Elle était comme ça, Angela, imposant une forme de respect, finalement, quitte à avoir ses adversaires à l'usure, comme le confiait François Hollande sur France 2.
Madame Merkel a une qualité, c'est qu'elle ne dort jamais. Et pour elle, la nuit n'est pas un problème. Non. Je me souviens notamment de négociations. À un moment, moi, je voulais interrompre, et Madame Merkel disait, non, il faut encore continuer. Continuez encore, continuez toujours.
Ah, elle me l'a crevé, mon François Hollande. C'était peut-être ça, le secret. Patience et simplicité aussi. C'est vrai que vu de France, vu de l'Élysée, elle est perturbante, Angela.
Une chancelière qui va toujours faire ses courses dans le supermarché de son quartier.
Même chancelière, elle va au proxy en bas de son appart et puis...
Je cuisine quand j'ai le temps, le samedi et le dimanche, même si aujourd'hui ce n'était pas bon.
Elle fait même la cuisine. Bon, plutôt mal, visiblement. Sa spécialité, la soupe de pommes de terre, paraît-il. Et maintenant qu'elle va avoir un peu de temps...
Opéra et randonnée avec son mari sont ses activités favorites.
Ouh, sacré programme. D'ailleurs, on pense aussi à Monsieur Merkel
Mais
ce
oui.
matin.
La presse parle beaucoup de notre couple. Je félicite M. Merkel qui est là. Je voudrais lui dire de ne pas croire tout ce qui est écrit dans la presse.
Ici taquiné par Nicolas Sarkozy, M. Merkel, qui va pouvoir enfin retrouver à 100% sa Angela. Enfin, le temps que la coalition se mette d'accord, c'est pas gagné.
Cyprien Sini, on vous retrouve ce soir.
Absolument, on défait le monde, 18h40, 19h, chez Julien Cellier.
Parfait, dans quelques instants, nous serons avec le garde des Sceaux qui répondra à vos questions au 3210 et au 64-900 code matin. Elles sont d'ores et déjà nombreuses. Éric Dupond-Moretti sur RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Il est 8h24. Merci Éric Dupond-Moretti d'être resté avec nous pour répondre aux questions des auditeurs d'RTL. Et on va tout de suite commencer avec Benoît qui est policier dans le département de la Savoie. Benoît, bonjour. Éric Dupond-Moretti vous écoute.
Ben bonjour Escavi, bonjour Monsieur le Ministre. Ma question sera assez simple. Je voudrais simplement savoir s'il pourrait nous apporter une réponse pour lutter plus efficacement en ce qui concerne l'effet de récidive.
Comment lutter de façon efficace et durable contre la récidive? C'est évidemment une question que se pose tout garde des Sceaux.
Bonjour monsieur. C'est une lutte constante. La récidive, c'est un véritable problème et il faut envisager cette lutte sous différents aspects. D'abord, vous savez que dans le texte que je porte, je fais en sorte que les réductions de peine soient maintenant accordées exclusivement à l'effort.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire qu'autrefois, il y a une partie de ces réductions de peine qui était...
automatique.
Automatique. Je ne veux plus de cette automaticité. Je veux que les détenus fassent un effort. Qu'ils prennent des cours, qu'ils travaillent quand c'est possible, qu'ils se soignent. C'est un des engagements que j'ai pris qui permet, me semble-t-il, de lutter efficacement contre la récidive. Le deuxième engagement, naturellement, c'est d'éviter ce que l'on appelle les sorties sèches. C'est-à-dire que, quand quelqu'un sort de prison, il faut que l'on ait préparé sa sortie. Je vais vous donner des exemples de ce que oui. je veux faire. Un contrat de travail pour les détenus. Et... bien sûr, en milieu fermé, en prison, mais également en milieu ouvert, pour ne pas que le détenu perde les codes de la société. Mmh. Et qu'au moment où il a payé sa dette, purgé sa peine, il puisse rapidement retrouver du travail dans le cadre du suivi judiciaire qui lui sera imposé. Je pense particulièrement à certaines formations diplômantes. Voilà deux pistes, il y en a évidemment bien d'autres. Qui permettent de lutter contre la récidive. S'agissant des mineurs, par exemple, le centre éducatif fermé, c'est un lieu qui permet d'affirmer au ministère de la Justice que les gamins qui passent par le centre éducatif fermé récidivent beaucoup moins que ceux qui n'y passent pas. Parce qu'il y a un volet répressif et un volet éducatif et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
Voilà la réponse à votre question, Benoît, du garde des Sceaux. Nous allons donner la parole maintenant à Jean. Il est retraité en région parisienne. Jean, merci d'écouter RTL. Nous vous écoutons.
Bonjour à vous tous. Ma question, c'est pourquoi parle-t-on encore en droit français de condamnation à perpétuité, puisque cette peine est systématiquement assortie de dispositifs au pluriel qui visent à ne jamais l'appliquer.
Le garde des Sceaux vous répond.
Bonjour monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai. En tous les cas, n'est pas complètement vrai, car il existe des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité avec une véritable détention à perpétuité. Il existe par ailleurs...
Une incompressibilité ?
Bien sûr. Il y a des gens qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité qui ne sortiront pas. Elle est réelle.
Ils meurent en prison, pour dire les choses simplement.
Ben, ils meurent en prison, oui.
Très bien.
Et puis, il y a un certain nombre de réclusions criminelles à perpétuité assorties... C'est vrai, d'un certain nombre de réductions de peine. Je l'ai dit à l'instant, et pardon si les deux questions se télescopent un peu, mais je ne veux plus, moi, de réduction de peine automatique. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je souhaite des réductions de peine conditionnées à l'effort. Ça change tout. Et ça permet aussi, il faut y songer, d'assurer davantage de sécurité pour les personnels pénitentiaires. Parce qu'un homme qui n'a aucune perspective de libération, je dis bien aucune, peut s'avérer particulièrement dangereux au sein de l'établissement pénitentiaire. Il ne faut pas qu'on oublie les personnels pénitentiaires.
Nous allons maintenant donner la parole à Catherine, qui est aide-soignante en région parisienne. Bonjour Catherine, nous vous écoutons.
Bonjour messieurs, bonjour monsieur le ministre. Moi j'ai entendu parler des casques de réalité virtuelle contre les violences faites aux femmes. Et j'aurais voulu savoir si vous pensez que ce sera réellement efficace.
Vous avez un doute, visiblement, Catherine.
Oui, un petit peu.
C'est bien ce qui me semble. Oui. Le garde des Sceaux vous répond.
Bonjour, madame. D'abord, cette initiative du ministère de la Justice, de la direction... de l'administration pénitentiaire, plus précisément, c'est une initiative conduite par des scientifiques, neurologues, psychologues et psychiatres. Le film qui est projeté dans un casque, en trois dimensions, a pour but de toucher une zone du cerveau dont on pense qu'elle est susceptible, enfin, de susciter de l'empathie. Un peu d'empathie. Il s'agit en réalité de mettre l'auteur à la place de ses victimes. Je dis ses victimes au pluriel parce que il y a d'abord la compagne, bien sûr, et il y a l'enfant ou les enfants. Quand cette projection est faite, il y a tout un débriefing, toute une discussion, là encore avec des scientifiques, mais aussi avec des magistrats, avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et nous sommes en phase expérimentale, madame. 3 mois d'expérience, et quand ces 3 mois seront terminés, il y aura une période d'analyse scientifique qui va durer 9 mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément deux volets pour lutter contre les violences intrafamiliales. Il faut protéger les victimes. Et nous avons fait beaucoup de choses pour les protéger. Bracelet anti-rapprochement, téléphone grave danger, ordonnance d'éloignement, hébergement des victimes. Grâce à Mme Moreno, on a plus 60% d'hébergement des victimes. Mais il faut aussi envisager l'auteur pour interdire, là encore, la récidive. Et ça, ça fait partie des outils qui sont susceptibles de réduire, de diminuer la récidive.
Et alors justement, Monsieur le Ministre, parce que les associations féministes, je pense à Oser le Féministe, le féminisme, disent « Vous vous souciez plus des auteurs que des victimes, et c'est un gadget, ce casque virtuel. »
Pardon, j'ai beaucoup de respect pour les associations de protection des victimes. Le tissu associatif, c'est essentiel. Je ne vais pas redire ici tout ce que font les associations, tout le monde le sait. Et nous avons besoin des associations. Mais on ne peut pas critiquer un outil dont on ne connaît rien. Pardon de le dire, Madame Ventura. J'invite ces associations à venir au ministère. On leur fera une démonstration.
Vous l'avez essayé, ce casque ?
Oui, bien sûr. C'est très perturbant. C'est très choquant. Ah oui, bien sûr. Mais j'invite les associations, je le dis ici, et je permettrai que ces associations soient en contact avec les scientifiques et les magistrats qui ont conçu cet objet. On ne peut pas critiquer comme ça par principe. Il faut d'abord avoir vu comment ça fonctionne. J'ai entendu par ailleurs une avocate dire « Mais vous consacrez de l'argent à ce casque, un peu plus de 100 000 euros, c'est 300 euros par casque, et pendant ce temps-là, vous ne faites pas. » Ben si, on a 1000 bracelets anti-rapprochement à destination de toutes les juridictions de ce pays. Nous sommes passés...
Encore faut-il qu'ils soient distribués ? Vous savez que c'est une des questions.
Vous savez que depuis que j'ai pris une circulaire dont on a dit qu'elle était comminatoire, les bracelets anti-rapprochement ne restent plus dans les tiroirs. Ce sont les magistrats qui décident de cela. Mais nous, le travail de la chancellerie, c'était de les mettre à disposition de toutes les juridictions du pays, ce que nous avons fait. Et il y a le quoi qu'il en coûte, et il est encore en vigueur sur ce terrain-là. Si les 1000 bracelets sont distribués, il y en a 400 qui sont actifs pour le moment, nous en aurons et nous en commanderons d'autres. Et il y a enfin tout un dispositif qui est mis en place. Le budget en la matière, c'est plus 25%. Donc il faut aller bien sûr vers les victimes pour les protéger, mais il faut aussi regarder l'auteur du point de vue de la récidive.
Merci Catherine d'avoir interrogé le garde des Sceaux. Nous donnons maintenant la parole à Dominique, qui lui est avocat à Lyon. Bonjour Dominique, le garde des Sceaux vous écoute. Merci d'écouter.
Oui, bonjour monsieur le garde des Sceaux, bonjour monsieur Calvi. Ma question, c'est le code pénal actuellement prévoit un maximum de peine, mais pas de minimum. La question est que souvent ce maximum n'est pas appliqué ou n'est jamais appliqué. Faudrait-il des peines planchées ou à l'inverse diminuer le maximum encouru pour mieux faire coller la peine encourue à celle qui est prononcée réellement par les magistrats ?
Faut-il réinstaurer des peines planchées, Éric Dupond-Moretti ?
Bonjour, tout d'abord... Mon cher maître, les peines planchées, pardonnez-moi, mais on les a essayées dans notre pays, durant 4 ans. Et il n'y a pas eu l'ombre de l'once d'une baisse de la délinquance. C'est la droite qui a mis ça en place. D'ailleurs, c'est des peines planchées à trous. Pourquoi ? Parce que le juge avait la possibilité de ne pas les prononcer. Et il ne peut pas en être autrement, parce que sinon, vous allez entraver la liberté juridictionnelle du juge, et c'est inconstitutionnel. Il faut qu'on arrête... Pardonnez-moi, et ce n'est pas à vous que le propos s'adresse, mon cher maître, mais il faut que la droite arrête de recycler ce machin-là dont on sait qu'il n'a pas fonctionné. Moi, vous savez, je suis pragmatique. Si demain, vous me donnez la démonstration de ce que cette solution est susceptible d'éradiquer la délinquance, je suis preneur. Je ne suis pas un idéologue. Mais il s'avère qu'on l'a testé et que non seulement ça n'a pas marché, mais il y a même eu davantage de délinquance pendant cette période des peines planchers. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été abandonnées. Donc ceux qui n'ont pas d'idée aujourd'hui, dans la course à l'échalote sécuritaire à laquelle viennent adhérer un certain nombre de candidats à la présidence de la République, eh ben, pardon de dire que ça n'a pas marché. Voilà la meilleure réponse. Moi, si j'avais la certitude que ça marche, j'y vais sans aucun problème.
J'ai 30 secondes en remerciant Dominique. Hein, je crois que votre réponse était claire. J'ai 30 secondes à vous donner avant de nous séparer. Éric Zemmour veut rétablir la peine de mort. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Ça m'inspire tout ce que m'inspire monsieur Zemmour. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'il voulait la rétablir. Il a dit qu'il était philosophiquement favorable à, dans l'ambiguïté, comme d'habitude. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, là, au moment où nous parlons, s'il est toujours polémiste, s'il est commentateur ou s'il est candidat à la présidence de la République. Moi, je préférais qu'il soit clair. Il ne sort pas de l'ambiguïté. Il a raison, de son point de vue. Parce que s'il sort de l'ambiguïté, là, c'est pas de la rodomontade, c'est pas Yaka Faucon, c'est faites-nous des propositions. Moi, j'ai entendu Madame Alba Ventura, vous l'avez interrogée sur son programme économique. Il n'y a rien. Donc maintenant, si vous voulez accéder à la présidence de la République, Monsieur Zemmour, permettez qu'il y ait une contradiction sur vos propositions. Ah, c'est pas parler de Maurras ou de la Troisième République et de nous faire un cours d'histoire. Ça, c'est fantastique. Mais enfin, c'est un autre exercice. Pour être président de la République, il faut un certain nombre de propositions. Voilà. Sur lesquelles on peut discuter de façon contradictoire. Et pour le moment, c'est zéro.
Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, d'avoir joué le jeu aussi du dialogue avec les auditeurs d'RTL ce matin après l'interview d'Alba Ventura. Bonne journée à vous. Dans un instant, et même tout de suite, nous allons nous intéresser à notre météo à 7 jours avec Louis Baudin.
Et au retour de ces perturbations qui reviennent balayer la France, c'est un peu normal à l'automne. On les attendait depuis un petit moment quand même. Et donc aujourd'hui, on a la première qui va traverser la France. Nuages, plus au programme, vent assez fort, notamment sur le littoral de la Manche. Avant et après le passage de ces perturbations, quelques éclaircies. Les températures reviennent à des niveaux de saison, un peu moins de 20 degrés au nord de la Loire, plus de 25 dans le sud. Demain, accalmie entre deux perturbations avec le retour d'un temps sec. Alors bon, on finit le ciel tout bleu. On aura quand même beaucoup de soleil dans l'extrême sud et quelques passages nuageux dans le nord, mais pas de précipitations. Les températures, un peu moins de 20 degrés dans le nord, entre 20 et 26, 27 dans le sud. Mercredi, voilà une autre perturbation. Hein. Ça va être l'alternance avec de nouveau des nuages, de la pluie circulant sur toutes les régions. Jeudi et vendredi, accalmie. Puis malheureusement, pour le week-end prochain, ça semble de nouveau très perturbé avec des nuages, de la pluie, baisse des températures et l'arrivée de la neige en montagne très probablement dans la journée de dimanche. Déjà,
ça me fait plaisir.
Une belle secouche. Moi aussi.
On peut ouvrir les stations de sport d'hiver cette année, n'est-ce pas ?
Nous sommes compris. Espérons, je pense.
Mais bien sûr, faisons le pari qu'on pourra les ouvrir. Merci beaucoup, Louis Baudin. Dans un instant, Isabelle Choquet.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
8h40, ce matin Isabelle Choquet, nous explorons avec vous la face sombre de l'âme humaine, les lettres anonymes.
Oui, des lettres de délation. Les élus en reçoivent régulièrement. Un certain témoigne ce matin dans Le Parisien aujourd'hui. Notamment le maire de Valence dans la Drôme. Nicolas d'Aragon reçoit environ un courrier anonyme par semaine. Dans ses archives, il y a par exemple cette lettre d'octobre 2018. L'auteur annonce la couleur dès la première ligne, dénonciation de mariage blanc. Je vous signale que monsieur X a payé madame Y après l'obtention de sa carte de séjour. Leur accord a été de se séparer après la régularité de sa situation. Suivent deux pages d'argumentaire en pâte de mouche au stylo bleu et cette justification, monsieur X a été arrêté à plusieurs reprises pour vol et agression, j'ai été l'une de ses victimes. Bizarrement, les messageries et les réseaux sociaux n'ont pas eu la peau de la bonne vieille lettre de délation. Question de discrétion sans doute. En 7 ans, monsieur le maire a accumulé de quoi remplir un gros dossier, une centaine de pages. La secrétaire a tout classé par thème, inventaire à la Prévert des rancœurs et des rancunes. Il y a les justiciers masqués, les intolérants honteux, les voisins obsessionnels, écrit le Parisien. C'est un certain X qui a mis le feu au conteneur à verre de la rue Y. Un petit blond de 14-15 ans qui se rend à l'école à vélo. Sur une autre page tapée à l'ordinateur, un véhicule Renault immatriculé, ceci cela, est en défaut d'assurance depuis 2015. Son contrôle technique est échu également. Serviable, le voisin indique même où égarer le véhicule suspect. D'autres se plaignent de la présence des migrants ou des femmes voilées. Le maire, lui, fait la part des choses. La vengeance gratuite entre voisins, les insultes, ça finit à la poubelle, dit-il. Mais informer la municipalité de faits délictueux en bas de chez soi, bah, ce n'est pas répréhensible. Dans son dossier, on trouve une vingtaine de lettres d'un habitant d'une zone prioritaire. Grâce à ses descriptions et ses photos, on a pu repérer un point de trafic de stupéfiants. Nicolas D'Aragon refuse de juger la méthode. Je peux comprendre que les auteurs cachent leur identité. Ils ont peur d'être démasqués par ceux qu'ils croisent dans la cage d'escalier. À ce jeu du corbeau, les villages semblent plus épargnés que les villes, sans doute parce que tout le monde se connaît. Mais la délation, en fait, se pratique partout. À Villedieu-sur-Indre, dans la banlieue de Châteauroux, Xavier Elbaz collectionne les correspondances les plus hallucinantes dans ce qu'il appelle sa boîte à zinzin. Il y a des fous, des complotistes en pleine bouffée délirante, dit-il. Et ce courrier d'une personne qui a eu un PV et qui a photographié d'autres voitures dans le même cas, histoire de se sentir moins seul. La délation a atteint des sommets avec la pandémie. Monsieur un tel ne respecte pas le confinement, tel autre a reçu des amis chez lui sans masque. Voilà ce qu'a reçu Flavien Neuvy, maire de Sébaza dans le Puy-de-Dôme. Il se dit inquiet. S'ils étaient armés comme aux États-Unis, les Français pourraient se tirer dessus. À la Baule, Franck Louvrier confirme, c'est une tradition française déplorable, mais il ne faut jamais prendre ses envois à la légère. Ce proche de Nicolas Sarkozy se souvient, avant de prendre en otage une école à Neuilly, Human Bomb avait envoyé des lettres anonymes. Les lettres anonymes, une passion française. Enquête à lire dans le Parisien aujourd'hui.
Une passion française qui fait peur. Merci beaucoup Isabelle Choquet.
Oui.
À demain matin. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
8h46, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Éric Zemmour a porté plainte contre Paris Match qui a publié, vous le savez bien, en couverture de son dernier numéro, une photo de lui à la plage où il apparaît très proche de sa conseillère.
Salut, ça va ?
Ah, bonjour Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous faites là ?
Ah, bah il y en a marre, vous ne... n'avez plus que Zemmour à la bouche, Zemmour, comme sa conseillère.
Ah, restez poli, s'il vous plaît.
Il n'est pas candidat, tout le monde parle de lui. Je suis officiellement candidat et tout le monde s'en fout. Mm-hmm. Zut, à la fin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Enfiler mon slip de bain, made in France et aller me baigner, c'est ça ? Vous ne seriez pas déçus, je suis quand même mieux gaulé que l'autre asticot.
Bon, ben au revoir, Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'ai amené un photographe, je peux vous galocher ?
Ah non, merci.
Et Yves Calvi, il veut pas se frotter par hasard ?
Non plus. Depuis quelques semaines, la faillite possible du géant chinois Evergrande menace l'économie mondiale. On en parle avec notre spécialiste économique, François Langlais. Alors François, faut-il craindre ce nouveau krach mondial ?
Écoutez, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c'est que s'il y a un krach en Chine, des millions de petits-enfants vont perdre leur emploi dans les usines chinoises.
Oui, c'est pas forcément une catastrophe ça.
Si, réfléchissez. Sans enfants qui les fabriquent, on ne pourra plus changer de basket qui clignote ou de téléphone portable.
Bon, admettons. Et le pour ?
Le pour, c'est que si les Chinois font faillite, Macron va les sauver en leur envoyant le train de la relance et quelques milliards.
Je vois. Vous faites allusion au plan de relance du gouvernement. Certains économistes disent que le président Macron dépense sans compter en vue des prochaines élections.
Au contraire. Comme nous sommes en campagne électorale, c'est le bon moment pour demander une aide. Mmh. Prenons un exemple concret. Mmh. Vous voulez changer de poncho pour l'hiver ?
Bien concret.
Oui. Eh bien, l'État vous reprend 2000 euros, votre ancien poncho tout bouloché, contre un nouveau poncho plus écologique et en fibre de bois.
Ah très bien, j'ignorais qu'il existait cette mesure gouvernementale.
Il suffit de donner un autre exemple. Oui. Votre chien Bibi perd ses poils sur le canapé.
Jamais.
L'État vous offre un an de shampoing anti-chute pour chien-chien à sa mémère et un canapé neuf pour participer à la relance.
Ben, merci beaucoup pour ces exemples, François Langlais. On a compris que la période n'est pas aux économies. Hein.
Mais il y a encore mieux. Si vous voulez changer vos vieux sous-marins diesel contre un sous-marin furtif neuf, le gouvernement vous offre une prime à la conversion de 2 milliards. C'est le moment d'en profiter.
On va y penser. On retrouve maintenant Jean-Michel Apathy qui anime, comme chaque jour, son émission de débat, Les Experts Apathy sur LCI.
Bonjour et bienvenue dans les Experts Apathy, la tribune libre où les opinions les plus diverses et variées s'expriment en toute liberté. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie avec Sandrine Rousseau, candidate écologiste à la présidentielle, et l'acteur de gauche Pierre Arditi. Madame Rousseau, nous connaîtrons demain les résultats de la primaire Europe Écologie Les Verts. Oui. Pensez-vous avoir vos chances de l'emporter ?
Et pourquoi j'aurais pas mes chances ? Évidemment, parce que je suis une femme. C'est bien une question de vieux mâle blanc, ça.
Mais c'est lamentable. C'est absolument lamentable.
Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a, le vieux boomer ?
Je vous prie de bien vouloir ne pas déroger aux règles les plus élémentaires de la courtoisie et de ne pas vous écarter de notre sujet du jour. En l'occurrence, l'écologie. Sandrine Rousseau, quelle est votre conception de l'écologie ?
Ma conception, c'est de placer la diversité dans une approche inclusive et non genrée de l'espace public éco-citoyen, évidemment.
Mais ça ne veut rien dire. Mais c'est une bêtise, mais c'est consternant. Ça ne veut rien dire, c'est absolument consternant.
Ah ouais, et ça se dit homme de gauche. De gauche caviar, ouais. Moi, le caviar, je laisse aux hétéros cisgenres. Je préfère le boulgour.
Mais enfin, mais c'est pas possible. Elle a fumé son boulgour. Elle raconte n'importe quoi. C'est pitoyable. Non, c'est vraiment pitoyable.
Madame Rousseau, au risque de sortir de la neutralité inhérente à mon rôle de journaliste, je ne peux que donner raison à Pierre Arditi. Traiter vos contradicteurs de vieux boomers et d'hétérocisgenres, ce n'est pas ce que j'appelle argumenter. Je vais donc rendre l'antenne.
Mais c'est de la censure, espèce de fasciste. Non, pas Saran.
Alors non, c'est pas possible. C'est un traquenard, cette émission. Pourquoi je suis venu ? C'est pitoyable, absolument pitoyable.
Sortez-le de là.
L'annulation par l'Australie au profit des États-Unis du contrat portant sur 12 sous-marins français a ouvert, vous le savez bien, une grave crise diplomatique entre Paris et Washington. Pour nous éclairer, retrouvons le spécialiste de la stratégie militaire américaine, John Rambeau. Bonjour John.
Ouais, c'est ça, good morning.
Oui. La France considère que les États-Unis ont œuvré dans son dos et a répliqué en rappelant son ambassadeur. Ça vous inquiète ?
Arrête de me faire marrer, cuisse de grenouille, tu vas me faire péter mes cicatrices. Que les bouffeurs d'escargots fassent revenir leurs mangeurs de Ferrero Rocher, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Putain, il est fort le Biden. Nous autres, à la Maison Blanche, quand on l'a vu arriver avec son déambulateur, on s'est dit « On va être ridicule avec ce petit vieux qui fuit de partout. » Mais en fait, c'est un vicelard, le Joe. Il fait ses coups en douce. Il vous l'a bien mise à l'envers avec le contrat des kangourous. Même Donald, il aurait pas osé.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a dit que la France n'en resterait pas là.
Je t'ai déjà dit de pas me faire rigoler, oui. Ça va me découdre. Qu'est-ce qu'il va faire ton breton? Il va nous envoyer des galettes saucisses dans la gueule en guise de représailles? Nous on a Superman, Iron Man, Captain America et vous avez qui? Jean-Yves Le Drian! Oh là là, on a vachement peur.
Mais pourquoi avoir volé le contrat portant sur les sous-marins français?
Ne parle pas de sous-marin français.
Quoi?
Ça me rappelle une histoire que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Bon, allez, racontez-nous, John Rambeau, ça va vous soulager.
Ouais. Avec mon copain Bobby, on était en mission dans un sous-marin Frenchie. Et là, il y a un matelot bouffeur d'escargot qui nous a demandé si par hasard on voulait écouter de la musique française, quoi. Alors nous, avec Bobby, on dit, d'accord, t'as qu'à nous mettre du Brel, Ne me quitte pas, par exemple.
Ouais, et alors?
Et alors? Voilà ce qu'il a mis.
Je t'invente des mots insensés, des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai.
Oui, alors, oui, c'est la fameuse. Bah oui, vous savez ce que c'est. C'est la fameuse reprise de Camélia Jordana et Isolde.
Bobby et moi, on s'est mis à saigner des oreilles. On voulait sortir, mais on pouvait pas vu qu'on était dans un sous-marin à 400 mètres sous la mer, c'était horrible. On aurait préféré se noyer plutôt que de supporter ça.
On vous comprend, John Rambeau, ça va aller.
C'est pour ça que vous autres, les cuisses de grenouille, vous êtes dangereux. Camélia Jordana et Isolde, c'est pire qu'une arme chimique et une bombe nucléaire. Alors écoute-moi bien. Si vous essayez d'arroser la terre entière avec cette bouse, on va vous faire une guerre comme vous en avez jamais vu. Arrête cette merde, j'ai dit, je vais crever.
Oh là là, ça se termine trop vite.
Oh mon Dieu. C'est fini, monsieur Calvi.
C'est terminé.
On revient demain.
Ah bah alors, ça, c'est la très bonne nouvelle. Voilà. Et d'ici là, sur le site RTL.fr, merci à toute l'équipe.
Merci Laurent.
Dans un instant, ça peut peut-être vous intéresser, notre ami Lignac va travailler le cheddar vintage.
Ah oui. Ah.
So chic, you know.
Hein? Cheddar vintage.
Cheddar vintage.
C'est du vieux.
C'est du vieux cheddar.
C'est un vieux cheddar.
Mais c'est ça. Sortez de là, il faut qu'on me sorte de là. Allez, 8h54, à tout de suite avec Cyril Lignac.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour mon Cyril.
Bonjour.
Nos auditeurs vous écrivent sur rtl.fr/participer pour vous demander des conseils en cuisine. Alors ce matin, nous avons choisi la question d'Ingrid Devanne dans le Morbihan. Alors mon excellent fromager, nous dit-elle, maître fromager d'ailleurs, il vous parle de plus en plus, hein, c'est de plus en plus une fresque. A du cheddar affiné plus de 300 jours, je pourrais en grignoter toute la journée, mais je cherche une recette fine et gourmande à la fois pour le sublimer, surtout pas le Welsh, hein, c'est vraiment beaucoup trop lourd, nous dit-elle, elle est extraordinaire.
Alors déjà, elle a un bon fromager parce que oui. Un cheddar de 300 jours, oui. C'est vrai
faut
que
le trouver.
Ouais, j'ai envie de dire, on le mange comme ça. Oui. Mais on peut aussi le mettre sur certains produits, le râper frais, pour qu'il nous donne toutes ses saveurs. Donc là, j'ai pris une belle feuille de laitue. Mm-hmm. Donc j'aime bien soit les belles laitues, soit les cœurs de romaine.
Ah, j'allais vous dire, moi, j'aurais pris de la romaine. Mais bon.
Exactement. Voilà. Et donc la romaine, donc bien longue, fine, avec des côtes bien fraîches. Mm-hmm. Ça, c'est délicieux. Et on va faire une vinaigrette gomae. Alors gomae, c'est une recette japonaise que je fais dans mon restaurant japonais. C'est hyper bon parce que c'est à base de 80 g de yaourt grec, ouais. 16 g de pâte de tahine. Mm-hmm. Alors la pâte de tahine, c'est une crème de sésame, ouais. En fait. C'est un aliment de base de nombreuses cuisines, surtout dans la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Bien sûr.
C'est végétalien et sans gluten.
On le trouve beaucoup chez les Libanais.
Exactement, et c'est un petit goût de noisette. Mm, à ça, bon. J'ajoute 10 g de jus de citron. Alors moi, je pèse même le jus de citron, vous avez vu.
Oui, on fait, alors, vous savez quoi? Vous êtes obsessionnel, c'est votre charme.
Je pourrais dire, allez, on presse un petit jus de citron, 8 centilitres de sauce soja, 7 g d'huile d'olive, donc ça fait une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. On mélange tout ça, ça nous fait une petite vinaigrette. On prend quelques petites crevettes décortiquées, des petits croutons de pain. Et là, dans ma salade romaine, je dépose les petites crevettes, les croutons de pain. J'assaisonne avec ma sauce et je mélange bien et par-dessus je râpe le cheddar avec une microplane. Ça nous donne des petits fils et c'est délicieux parce qu'on va vraiment apprécier les 300 jours.
Mais ça me donne tellement envie. Alors là, je vous jure que c'est une recette. Merci beaucoup, chère Ingrid. C'est un plat, c'est une entrée.
Oui, c'est une belle entrée. Ça peut être un plat aussi, hein. C'est une belle entrée.
Bon, eh ben c'est très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà Ingrid, j'espère que vous nous avez donné une recette qui vous donnera beaucoup de plaisir. On vous met le détail, hein, et les ingrédients très exactement sur rtl.fr. À demain, Cyril.
À demain.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité avec Dominique Tenza.
Et d'abord ce coup de pouce pour les employés de la restauration. Emmanuel Macron doit annoncer dans la matinée la défiscalisation des pourboires réglés par carte bancaire. Ils représentent parfois 5 à 10% du salaire des serveurs. Autrefois versés en espèces, ils ont tendance à se raréfier avec le sans contact. Un pourboire versé en carte bleue sera donc désormais exempté de taxes. Le chef de l'État qui participait hier soir pour la première fois au dîner des grands chefs organisé à Lyon en marge de la cérémonie du Bocuse d'Or, il a à cette occasion annoncé la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française destiné à entraîner pour les grandes compétitions les meilleurs chefs de France, un peu comme Clairefontaine pour le foot ou Marcoussis pour le rugby. Deux exemples cités par Emmanuel Macron. Vers un bras de fer en Allemagne après la victoire ultra serrée cette nuit des sociaux-démocrates du SPD en tête juste devant les conservateurs de la CDU. Place désormais aux tractations en vue de la formation du prochain gouvernement. Les discussions pourraient durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. À 29 ans, il inscrit son nom en majuscule dans l'histoire du cyclisme français. Julian Alaphilippe, une nouvelle fois sacré champion du monde hier dans les Flandres. Premier français à conquérir deux titres depuis les débuts de cette compétition dans les années 20. L'entretien du champion est à retrouver en longueur sur notre site rtl.fr. Et puis quelques résultats de football. Le Paris Saint-Germain a désormais un nouveau dauphin, Lens, qui a infligé à Marseille hier sa première défaite de la saison, 3-2. Notez que Metz est sorti de la zone rouge avec une précieuse victoire 2-1 face à Brest.
Merci beaucoup Dominique Tenza.